1, 2, 3. 3, 2, 1.
Ici, ça.
Kampai.
Et là, en fait, tu mets le Kampai. Goût de flashback au début. Non, c'est pas au début de flashback, c'est au début de.
C'est pas flashback, hein.
Du jeu de. Le début du jeu de. L'ancêtre de flashback, là, comment il s'appelle?
Bah, c'est la suite, tu veux dire?
Another
World.
Ah, Another World, ça. Au début, il y a le glou-glou digitalisé.
Effectivement. Je pensais que tu parlais de Fade in Black, la suite.
Non, pas Fade in Black.
Pourquoi tu parles de flashback d'ailleurs?
Parce qu'on est au Game Bar Flashback de Kita Sanju.
Très bien. Voilà. Qui a été lancé il y a quoi? Il y a peut-être. Maintenant, il y a quand même. Oui, ça fait déjà deux semaines, je crois.
Le 16.
Ouais, très bien. Très, très bien.
Non, pas le 16, donc que dis-je?
Bah, aujourd'hui, le 23. Donc
le 16, c'était la soirée Monster Hunter.
Tout à fait. On a fait une soirée Monster Hunter qui était sympa, d'ailleurs. Mais bon, ce soir, on n'est pas là pour parler de ça. Ce soir, on est là pour parler surtout de. Bah, de cette fin d'année de jeux vidéo. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées depuis. Mmh. Et ce soir, je suis avec. Bah, comme vous avez entendu, je suis avec Matt.
Bonjour.
Et FX.
Bonjour, bonsoir.
Voilà. Donc. On change pas les bonnes habitudes.
Voilà.
Bah, ce soir, on monte. Bah, on est que trois. Le trio infernal, quoi.
les trois meilleurs.
Trois meilleurs, si les tu veux. En tout cas, les plus fidèles. Voilà, regarde, voilà. C'est comme ça. Donc, en plus, on va dire qu'aujourd'hui, il y a deux anniversaires à fêter, en fait. Enfin, pas forcément deux en même temps, mais très proches. Donc, aujourd'hui, on est le 23 décembre au Japon. Donc, pour ceux qui savent, c'est quand même l'anniversaire de l'empereur. Est-ce que vous êtes déjà allé voir l'empereur directement dans son château? Enfin, dans son château.
C'est
le château impérial.
Ouais, c'est le palais impérial.
Le palais impérial.
Moi, je suis allé il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus.
Mais t'as fait la queue pendant combien de temps?
En fait, je suis allé vraiment super tôt le matin. Je crois que je suis arrivé à 7h, un truc comme ça.
Ah oui.
Et il y avait du monde, mais en fait, c'est la première queue, donc tu rentres, mais direct, quoi.
Mmh.
Et non, parce que normalement, moi, je trouve que tu vois, le palais impérial, tout ce qui est autour, en fait, c'est grand, c'est chouette et tout, mais. T'as rien à voir en fait. Tu te rapproches, t'as des arbres et tu au loin. Quand tu fais un peu de jogging,
je vais courir là-bas souvent. Voilà. Et c'est magnifique pendant la période du koyo et des sakura.
Alors, koyo, c'est quoi?
Le koyo, c'est les feuilles d'automne qui rougissent.
Qui viennent rougeâtres.
Non, pas parce qu'elles sont azukashi, comme on dit ici, c'est-à-dire timides, mais. Ouais, on peut traduire par.
Bah, c'est les changements de couleur de l'automne.
Ouais, c'est l'automne. Ouais. C'est l'automne et les paysages sont magnifiques ici.
Est-ce que tu as fait ça au Canada déjà?
Au Canada?
Ouais, pas que c'est super beau aussi.
Ouais, ça doit être magnifique. Ouais. Quoi.
Voilà, donc pourquoi on dit ça? Parce que. Oui, donc du coup, donc, tu faisais toi ton petit jogging autour. Parce qu'en fait, ça fait pile poil 5
km. 5 km, voilà, okay. 2 tours, ça fait 10 km.
Mais moi, je trouve. Enfin, c'est sympa, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu vide, quoi. Et du coup, quand tu vas voir l'empereur, tu as le droit de rentrer vraiment au sein. Pas dans sa maison, t'as pas le droit de rentrer dans sa maison, mais tu rentres quand même dans le palais.
C'est-à-dire qu'en fait,
tu
passes.
Enfin, pas le palais lui-même, c'est-à-dire que là où il habite, mais le jardin autour du. Enfin, t'as deux parties en fait, t'as le premier jardin et le deuxième jardin. Donc tu passes le pont, tu passes la flotte, et t'as de l'autre côté. Et là, les gens ils se mettent dans une queue super longue en fait, qui mène vers un rassemblement de beaucoup de personnes. Et c'est marrant parce que t'as les Taïwanais, t'as les Thaïlandais qui viennent, c'est des fans
t'as
de l'empereur.
Beaucoup de touristes aussi qui viennent.
Beaucoup de touristes qui viennent, des Américains et de l'extrême droite japonaise forcément, parce que là ils sont toujours attaqués. Ils sont là. Et en fait, et du coup, tu es juste en face du château, enfin, du palais, et tu vois l'empereur qui arrive. Mais qui arrive, en fait, t'as une grande vitre, en fait, si tu veux, énorme, au troisième étage, au quatrième étage, et il arrive comme ça, et tu le vois de très très loin. Donc, moi, j'avais filmé.
Il fait un truc, il fait un discours ou...
Oui, il fait un discours, il dit une phrase. En gros, il dit je vous bénis pour l'année prochaine, un truc comme ça.
Que m'acheter au Medetto.
Ouais, que m'acheter au Medetto, et.
Melicoli,
enfin non. Mais il fait un petit signe de la main, et puis tout le monde fait oh voilà, et ouais, banzai, et puis voilà.
Moi je pensais que tu pouvais lui serrer la main.
Ah oui, il te file les drapeaux aussi.
Ah, le petit drapeau japonais quand même.
Ouais, il te file les petits drapeaux japonais.
Alors est-ce que c'est le rond rouge sur fond blanc ou est-ce que c'est le rond rouge avec les rayons?
Non, c'est pas les rayons.
Ce serait pas les rayons.
Non, c'est le truc classique, c'est pas le truc fasciste.
On sait jamais.
Impérial.
Impérial, fasciste, pareil.
Parce que le palais impérial.
Ah, tu sors les mots.
Le palais impérial est pas très loin de Yasukuni, quoi. Mais bon, là on change.
On va parler des Cunis, c'est mieux.
C'est un peu mieux.
Donc voilà, donc j'avais dit il y a deux anniversaires. Donc l'empereur, et puis aussi l'anniversaire de l'Habitat. Mais l'Habitat c'était le 16, non le 17. Alors tu te rappelles, Matt? Moi je suis arrivé au Japon en septembre 2011. On s'était rencontré, je pense que un peu avant.
Un petit peu avant.
Ouais. Et FX, toi t'es arrivé juste un an après, en fait, c'est ça. Pile poil un an après. Non, tu en arrives à l'été 2012.
Je suis arrivé en septembre 2012.
Bah, ouais, juste, ouais. T'es pile poil un an avant la. Ah, après là, la
petit, en fait.
Je suis arrivé pour le TGS 2012.
T'es un petit.
J'étais devenu. J'ai fait 5 semaines en. C'était quoi, en avril 2012.
Mais c'est pour ça que t'as pas développé vraiment d'amour pour la Vita.
Ah, ça va être pour ça.
Tu peux pas comprendre. Avec Matt, on a fait la nuit blanche. Voilà.
En mangeant des nuggets au McDo.
McDo, et puis en jouant à c'était quoi déjà à Rhythm Game.
On jouait
à Rhythm Game.
Ah oui,
chez toi.
Moi, ouais. On était revenu chez
en
moi
fait,
parce qu'il faisait trop froid.
Ouais, faisait, ouais.
Oui, et puis, on avait joué à Rhythm no Tengoku, c'est vrai, sur Wii, ouais. qui est un épisode magnifique d'ailleurs.
Ouais.
Ah ouais.
Voilà, puis on est retourné le matin, très tôt le matin.
On avait un peu triché en fait.
Oh, soft map. Moi,
ouais,
quand même,
triché,
non.
Hein.
Mais il y avait pas. Et bon, en fait, il y avait une grande queue devant le
dos.
Yodobashi,
ouais. Ouais,
mais le soft map, ça allait, c'est tranquille.
On est passé rapidement, ouais, on est rentré chez moi.
C'est marrant parce qu'il y avait Anne aussi.
Qui avait fait l'interview. Ouais.
Et pris les photos, on avait aligné nos Vita et tout. Non, c'était cool. C'était un bon souvenir quand même. C'était un peu Natsukashi quand même. Hein.
Bah,
c'était
quand
un petit
même,
truc.
Ouais, ça fait combien, 5 ans?
Ça fait 4 ans. Enfin, 4 ans depuis la Vita. Toi, ça fait 5 ans que tu es venu un an avant.
Voilà. 4 ans. Ça passe vite.
Ça passe super vite, quoi.
Je me souviens, j'étais tout content d'avoir Uncharted le jeu où tu fais rouler la boule là.
Katamari.
Katamari Damacy, ouais. Ah, c'était...
Mais on avait tous pris ça en fait. Moi, j'avais pris Katamari et Uncha. Et non, c'est ça.
C'est fou quoi, parce que la Vita avait tout pour marcher.
Et elle a... Bah, au Japon, elle a marché. Enfin,
elle a
marché. Elle a
marché comme la PSP quoi, elle a marché sur certains jeux.
Ouais, mais ce qui est intéressant avec la Vita, c'est que en fait, la PSP a marché grâce à la machine elle-même. Les jeux se vendaient pas.
Ouais, grâce à Monster Hunter quoi. C'est Monster Hunter qui a marché.
Oui, au Japon, effectivement. Ouais, effectivement. Dans le cas du Japon, c'est vrai. C'est grâce à Monster Hunter. Mais en Occident, les gens ils achetaient la PSP. Et à l'époque, je bossais chez Micromania, les gens ils venaient. Il te demandait limite, des fois, c'est quoi le firmware en fait pour les trucs de case. Il voulait savoir parce qu'il voulait que la craquer pour faire le jeu par rapport. Soit télécharger le jeu, soit jouer les metteurs en fait.
Elle est extrêmement facile à craquer.
Et la Vita en fait, c'est peut-être aussi ça qui expliquerait peut-être entre guillemets, outre le fait qu'il n'y ait que des jeux japonais et des jeux indés dessus. Donc la masse ne s'intéresse pas trop à ce genre de console et en plus tu ne peux pas la hacker donc les gens ils s'en foutent complètement. Enfin, tu peux la hacker en fait, ce que tu peux faire c'est que tu peux installer sans la hacker en fait. T'installes un petit programme qui exploite une faille pour démarrer ta Vita en mode PSP. Mmh. Et du coup, tu peux effectivement jouer les ISO PSP et les émulateurs. Par contre, tu peux pas craquer les jeux Vita.
Voilà.
Le problème de la Vita, c'est qu'elle a mis vachement de temps à sortir des jeux, beaucoup de jeux en fait. Pendant un moment, on disait la Vita n'a pas
de jeux. En fait, d'ailleurs, des mauvaises langues disent toujours qu'elle a pas de jeux. Ah, mais je dirais que franchement, au début, est-ce que t'as déjà vu une console qui sortait avec autant de bons jeux?
Non, forcément.
De portable, tu te rappelles de la PSP, ce qu'il y avait sur la PSP à l'époque? Il n'y avait rien. Je crois qu'il y avait, quoi? Il y avait Gran Turismo.
La PSP du début à la fin, pour moi, c'était un cimetière. Hein.
Non, mais après, il y avait quand même pas mal d'RPG qui sont sortis et tout. Mais,
ouais, juste au Japon, vraiment sur la fin, quoi.
Ouais. Non, mais t'as des God of War. Ouais, effectivement, sur la fin.
Il y avait Chronicle 2 et 3, quand même.
Ouais, il y avait 10. Ouais. Non, il y a beaucoup de portages Super NES aussi. Non, il y avait comme des trucs, quoi. Mais non, sur Vita, je trouve que dès le départ, il y avait quand même pas mal de trucs. Mais des trucs.
Mina
en fait, dès qu'elle a pas pris.
Mina
Nihongo. Mina Nihongo, ouais.
Golf, là,
Mina no Golf, ouais. Il y avait Katamari, enfin Uncharted, comme on disait. Il y avait Gravity Days qui sortait juste après.
Pas mal, Wipeout aussi.
Wipeout qui tortille. Donc c'est marrant, quoi. Et après, vu que ça n'a pas pris, ils ont en gros son ils ont dit bon, bah, on va essayer de sauver la Vita avec les jeux indés. Donc ça marchait pour une niche, mais pour le grand public, c'était mort.
Le dernier gros titre, c'était Golden, PS4 Golden, non?
PS4 Golden.
Persona 4 Golden.
Le dernier grand titre, c'est un jeu qui est sorti un an plus tard. Enfin, c'est quasiment.
Bah,
même pas 6 mois plus tard, je crois.
Il y a quand même PSO2 hein, sur Vita. Il faut
oui, PSO2 qui est sorti juste après.
Au Japon, elle marche beaucoup sur les jeux un peu de niche japonais.
Oui,
après. Criminal Girl,
tous les visual novels.
Omega Labyrinth.
Par exemple.
Hein,
ton Gotti.
Tous ces jeux, ouais, mon Gotti Azukashi, on va dire. Encore une fois, Azukashi. Non, mais
le plaisir coupable, c'est ça.
Tous ces jeux qui sont graphiquement avenants à la japonaise, donc c'est
montagneux, c'est Yamaguni quoi.
C'est ça. Ouais. Mm. Mais aussi, ce sont des jeux qui conservent l'esprit traditionnel des RPG japonais en fait. C'est-à-dire que non, mais c'est ça, c'est du dungeon crawler. Il y a des très bons dungeon crawler, Criminal Girl.
Ah, tu veux parler au niveau du gameplay?
Au niveau du gameplay, ouais. Criminal Girl, bon ok, c'est outrant parce que. C'est outrant parce que t'as toutes ces nanas avec les boobs partout, machin, bon, à la japonaise, mais les mécaniques de gameplay.
Bah, c'est pas les boobs qui sont pour moi ce qui sont outrants. Pour moi, ce qui est outrant, c'est le côté mouet.
Bah c'est ça, c'est le côté mouet et le fait que tu doives maltraiter les nanas pour les faire monter un niveau.
C'est deux choses différentes, dire hello hello et mouet.
Là c'est muero.
Non mais c'est ça, c'est muero plus sado quoi.
C'est ça.
Mais t'as toutes les vices japonais qui sont dans un jeu rassemblé.
Mais le gameplay reste en or quoi. C'est comme Queen's Gate, je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu sur PSP, Queen's Gate, qui c'est un tactical RPG où tu dois détruire les armures des nanas pour les foutre à poil, et si tu y arrives, t'as du lait magique qui
c'est
leur coule dessus. Voilà, c'est... Mais mécaniquement, le jeu est génial, quoi. Enfin, c'est un super tactical RPG. Quoi.
Voilà, donc ça pour la Vita. En même temps, c'est marrant parce que donc, on parlait de la Vita le 17 décembre 2011. Par contre, on parle aussi de la mort de la PSP. Parce que la PSP arrête. Alors, pas la PSP elle-même, parce que tu peux la trouver. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu peux même acheter encore des jeux PS2 dans les magasins au Japon.
PSP.
C'est...
PS2.
Ouais, je fais juste le lien. Ouais. Mm-hmm. Les jeux PSP, t'en trouves aussi. Il y a même des jeux PSP qui sortaient aussi récemment encore en dur. En tout cas, le 31 mars, Sony va arrêter le store PSP que tu accèdes à travers ta PSP.
Alors, la question, parce que donc les jeux PSP que tu as achetés dessus.
Alors, c'est d'abord d'après ce que Sony a dit, tu peux les jeux que tu as déjà achetés sur le store PSP, tu peux les retélécharger à l'infini. Donc il y aura un soft ou je sais pas comment tu peux y accéder. En tout cas, aller sur le store, tu auras une liste où tu peux retélécharger tes jeux que tu as déjà.
Je sens que ça va foirer ce genre.
Par contre, tu peux télécharger les jeux PSP.
Sur ta PS Vita.
Sur ta Vita, ouais. Mais aussi, tu peux aussi télécharger tes jeux PSP sur ta PS4 et ta PS3.
Tu peux y jouer.
Ah, pas la PS4, pardon. Ouais. Par contre, sur la PS3. Mais tu sais très bien que tu peux connecter ta PS3 à ta PSP et copier tes jeux aussi dessus. Tu peux aussi télécharger les jeux PSP à travers ton browser. C'est ton appli sur iOS ou autre. Donc, tu peux toujours acheter des jeux PSP. Après, ça va être plus compliqué. Enfin, tu peux pas y accéder juste directement.
Ouais, du coup, t'es obligé.
En gros, ils se disent que plus personne n'achète des jeux PSP directement sur le store à partir de leur PSP. Et du coup, garder des serveurs ouverts pour rien comme ça, ça. Voilà. Ils coupent les coûts. Sinon, t'achètes une Vita comme tout le monde.
Bah, c'est ça. Ouais.
Ou deux Vita.
Mais la Vita, elle est un peu morte quand même.
Bah, et là, je sens. Je sens vraiment mal là. Ces derniers temps, je le sens vraiment, vraiment mal. Parce qu'on parlait.
PlayStation Experience, il y a eu des jeux Vita annoncés.
Alors, c'est marrant parce qu'il y a une exclu Vita américaine qui devait sortir, qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Severed. Donc les mecs de Inbox qui ont fait Guacamelee, et ils en avaient parlé bien avant. Le trailer est vraiment sympa et tout, et j'adore l'art et tout. Mais et je me disais bon, ben ils vont peut-être l'annoncer là. Enfin, ils vont monter un nouveau truc au PlayStation Experience. Rien. Ils n'ont rien montré. Par contre, ils ont. Qu'est-ce qu'il y a? Si, quand ils ont annoncé le Full Throttle qui avait été porté de PC, de version PC de LucasArts sur le PSN, ça sort aussi sur Vita. Et donc là, à un moment donné, il a sorti sa Vita, il a montré, ça sort aussi sur Vita. Quoi.
Alors que la Vita, en janvier, je crois que c'est janvier, le 26 janvier, il me semble.
Ouais.
Dragon Quest
Builders.
Avec la, t'as pris la collector toi, c'est ça?
Alors moi je l'ai commandé, mais j'ai annulé parce que en fait je c'est vraiment pour la déco et je m'en servirai pas en fait.
Donc, ouais, il faut que je m'en achète une troisième. J'ai une Vita européenne, j'ai une Vita japonaise, il m'en faut une américaine. Et je suis bon. Là.
Non mais t'as raison.
Bon.
Surtout que là, franchement, la Dragon Quest Builders, tu l'as vu, fils?
Non, j'ai un peu.
En fait, elle est toute gris, enfin métallique.
Ouais,
et t'as un slime qui fond comme ça, qui coule vers le bas. Comme, en fait, ça ressemble vachement à la console de la PS4.
C'est la PS4,
ouais. Ouais, elle est vraiment classe.
Elle est out of stock ou
Alors, tu peux l'acheter. Enfin, déjà, les mecs vendent déjà sur eBay, donc tu peux déjà acheter. En gros, au lieu de payer 2 man, tu la payes 5, 6 man.
T'aurais
7
dû
man.
Me dire, j'aurais pris ta préco.
Ouais, bah.
Merde.
Voilà.
Merde.
Après, par contre, il y a un bundle spécial sur le store de Square Enix qui est plus cher, je crois qu'il y a 3 ou 4 man. Mm-hmm. Et t'as un poster en plus, quoi. Juste pour un man en plus, tu perds. Ça a rien, quoi.
Je vais garder mon argent pour
Alors que
la collection.
Tu pouvais l'acheter en Tanpin, donc en solo, en tout seul, quoi. Et ça te coûtait 2 man, quoi. Mm-hmm. Comme une Vita normale. Elle est vraiment classe. Bon. Alors là, on s'égare un peu.
En tout cas, c'est intéressant de voir qu'effectivement, tout ce qui était store en ligne, tout ce qui dépend du online, un jour ou l'autre, c'est fait pour être fermé.
Bah, c'est ça qui fait peur. Il y a que Steam qui est fait pour perdurer.
Voilà. D'ailleurs, on parlait de ça parce qu'on parlons aussi vite fait comme ça, on glisse ça dedans parce que ça colle vraiment au sujet. C'est que, alors, vous vous rappelez donc la Steam Boy, donc ce qui devait être la console portable de Valve qui marche avec Steam, qui a été renommé en projet Smack Zero, qui a été annoncé il y a quelques mois dans pas mal de, en fait, en pas mal de sites de jeux vidéo. Et ils en parlaient comme quoi le target c'était qu'elle sorte en gros, c'était quoi, c'est l'été 2016. Et en gros, c'est retombé un peu dans les billettes. Il y a quelques jours, je tweetais avec un pote et tout, et il me dit, ouais, mais tu sais, en fait, là, je pense que ça va se planter, la Smack Zero. Je dis, bah pourquoi? Il me dit, parce que le Kickstarter qui ne marche pas. J'ai un Kickstarter. Il y a un Kickstarter pour ça. Il dit, bah oui, parce qu'en fait, c'est une société annexe qui bosse avec Steam, en fait, qui a proposé de faire cette console-là, qui a lancé un Kickstarter. Alors, d'après ce que moi j'ai compris, c'était plus pour tester le marché. Ils ont demandé quasiment 1 million, donc 900 000, c'est ça?
600 000 qu'ils
ont demandé. Non, 900 000, c'est 29 ans. Et ils ont eu. Ils n'étaient même pas 100 000, je crois. Enfin, c'était ridicule. Alors qu'il restait 20 jours, ils ont annulé le Kickstarter. Alors j'ai déjà vu des cas où ils ont annulé le Kickstarter parce qu'ils sont plantés sur pas mal de trucs. Ils ont relancé le Kickstarter genre la semaine d'après.
C'est mal foutu.
Mais je pense qu'au niveau com, ils sont plantés. Enfin, c'est quand même dingue. Imagine, il y a eu autant de. Enfin, autant. Pas tant que ça, mais il y a quand même eu pas mal d'articles sur Kotaku, IGN, machin et tout. Et dans aucun article, ils précisent que c'est un Kickstarter, quoi. Ça t'est fait en douce derrière.
C'est de la pierre de machin.
Enfin, c'est un truc de fou quand même. J'ai jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai appris ça il y a 3 jours. La console, je l'attendais. Enfin, c'est quand même dingue. Bon, parlons aussi de. Voilà, on parlait un peu de portage, de course portable, de compte, machin et tout. C'était des rumeurs il y a encore un mois et demi. Maintenant, c'est confirmé. Ça a été confirmé à 100% au PlayStation. Enfin, ça a été confirmé une fois sur Twitter par le président de Valve Studios Japon, Broe Shuida, que les jeux PS2 allaient marcher sur PS4. Par contre, on m'a annoncé que ce ne sera pas les disques que t'as acheté PS2 ne marchent pas. Ça sera uniquement les versions. En gros, c'est les jeux PS2 re-enveloppés dans un, en gros, c'est un émulateur enveloppé, enfin qui enveloppe le jeu, qui va faire tourner le jeu sur PS4.
Mais ça veut dire qu'il faut quoi ? Faut que tu rachètes.
Oui, tu rachètes le jeu.
Ils vont revendre les jeux PS2 ?
Ouais.
Avec des trophées.
Voilà. Alors pour moi, c'est. Je leur ai fait un grand fuck. En leur disant c'est quoi l'intérêt, parce que j'ai déjà mon jeu PS2 chez moi et je peux le mettre dans ma PS3 et ça marche, et dans ma PS2 et ça marche.
Alors moi j'ai tous les Suikoden et tous les Xenosaga à faire. À l'époque j'étais en prépa, j'ai pas eu le temps de les faire, quoi.
Non, mais il y aura des trophées, c'est quand même. Enfin, pour ceux, je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent, mais moi je trouve ça cool parce que si tu perds le côté physique, faut qu'il se rattrape d'un autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, si tu perds. Moi avant j'avais une petite armoire, j'avais tous mes petits jeux, hop, tu les rangeais comme mes DVD et tout. Si tu perds ça, en fait, tu perds le rapport. Si t'as que du numérique et tu télécharges comme ça à l'arrache, et si t'as pas de bibliothèque ou de, et ben tu perds ton rapport au jeu. Je trouve que c'est ça.
Mais faut avoir une bibliothèque, c'est tout.
Oui, mais d'accord. Mais tu sais, bien sûr, mais tu sais très bien que malheureusement, c'est via disparate.
Et donc, pour les gens comme nous, c'est plus difficile aussi. C'est-à-dire que pour les gens qui vivent en France, qui ont leur maison et qui vont rester là-bas toute leur vie, bon ben, t'entreposes, quoi. Ouais. Il n'y a pas de problème. Nous, on est amené à déménager régulièrement. Enfin, c'est peut-être moins toi.
Bah, mais plus de moins en moins avec l'âge, mais effectivement.
Moi, je ne me vois pas déménager avec toute ma bibliothèque de jeux. C'est pour ça que je suis contre le digital, mais je l'utilise parce que c'est utile pour moi.
C'est pratique, ouais. Bah, moi, des fois, je suis arrivé à un point où j'achète la. J'ai acheté parce que vraiment les jeux que j'ai vraiment envie d'avoir, je les achète. Je sors même pas du paquet, je les mets dans mon chez moi à côté de ma collection. J'ai 3-4 jeux comme ça que j'ai gardé vraiment. Genre, tu vois, Shadow of Colossus, des jeux comme ça, je les garde vraiment. Mais en fait, je joue à la version numérique.
Moi, Dark Souls, je dois l'avoir en 5 versions, dont 3. trois numériques, pas digital, numériques.
3 numériques, donc tu as acheté sur les 3 stores différents.
Ouais, pour toutes les collectors en fait.
Non, ce qui est dingue, c'est que du coup, on se fait doublement enculé parce qu'en fait, du coup, on entretient le numérique et on rachète les versions derrière. Bon,
c'est votre choix, les gars.
Moi, c'est vrai que
ça me fait
pratique. Peur.
Ça me
fait peur sur le long terme.
Parce que ça va disparaître un jour.
Parce qu'un jour, ça disparaîtra, comme tu dis.
Comme le store PSP, hein, un jour, tout ce que tu as racheté.
Et ce sera volontaire. Alors, Steam, je pense pas qu'ils le fassent parce que c'est leur fonds de commerce, mais je vois très bien un Nintendo ou un Sony annuler les anciennes versions, les remettre d'actualité sur un nouveau store, et où on va être obligé de tous les racheter encore une fois.
Mais tu sais, même Steam, un jour ou l'autre, ça va se casser les yeux.
Ça, c'est pas pour demain.
Non, mais est-ce que dans 20 ans, ça sera encore là?
Je pense que ça sera
20 ans. Je pense qu'il faut aller plus loin pour que ça se...
Je pense que Steam,
c'est... Parce que 20 ans, c'est pas grand-chose, hein, franchement.
Regarde, ça fait 5 ans que je suis au Japon, Steam, ça a commencé il y a 7 ans, 8 ans.
20 ans, t'imagines, c'est deux générations de consoles. Une génération, maintenant, c'est des cycles de 10 ans.
Les choses ont vachement vite, surtout quand on parle online, quoi.
Ah, mais Steam, oui. Je vois pas comment ça... Enfin, c'est la plateforme principale, quoi. Tu parles PC, t'as Steam, quoi.
Et non, mais le pire, c'est que tu peux même pas l'éviter. Tu peux le sur GOG, si le jeu existe sur GOG.
Non, c'est GOG.
Ouais, mais ils ont pas tous les jeux, GOG.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, si tu dis, pour certains jeux, tu peux, mais pas, tu peux pas pour tout, quoi.
T'achètes ta boîte.
Donc, le PlayStation Experience. Donc il y a eu lieu il y a quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant, je sais plus.
Deux semaines.
Donc c'est maintenant, je crois que c'est la 3e fois ou 2e fois qu'ils font ça maintenant.
Alors,
mais c'est marrant parce que tu vois quand avec la PS3 et la Xbox, ils ont vraiment perdu le fight au niveau publicité, au niveau en fait communauté et tout. Bon, ils sont rattrapés vers la fin, mais avec la PS4 en fait, j'ai vraiment l'impression que Sony ils se sont dit on va être proche de notre communauté en fait.
Sony, et du coup ils ont vachement bien réussi.
Et c'est incroyable comment maintenant ils sont grâce à Yoshida, parce que le mec il est partout dans le monde, faire des podcasts à gauche à droite, aller voir les gens et tout, et a vraiment développé ça.
Il sera là pour le mois prochain au podcast KY.
Ouais, bah ce serait cool, on l'invite un jour. Mais tu sens vraiment que Sony, ils ont ce souci maintenant de d'être très proche de leur communauté. Et donc le PlayStation Experience fait partie de...
Mais ils ont amélioré leur communication, ils sont passés de la PS3 où c'était le pire du pire, voilà, avec aujourd'hui le meilleur.
Ils ont fait le pire et le mieux en fait. Et du coup, bon, ça fait, d'un côté ça fait un peu très corporate, genre tu vois, quand tu vois le PlayStation Experience, en fait t'as des journalistes internes. En gros, c'est comme si t'avais, si la PlayStation avait sa propre
agence de
rédac au sein de... Donc c'est pas très objectif d'un côté, certes, hein, c'est pas, voilà. Mais en même temps, il y a eu quand même des pures annonces.
Alors vas-y, je vais
faire la liste des annonces. Mais est-ce que comme ça, je vous dis, est-ce qu'il y a une annonce qui vous a marqué, PlayStation Experience, est-ce que vous...
Oui. Alors moi, Ni no Kuni 2, quoi.
Ah, qui sera pas fait par Level 5.
Ouais. Non, attends, c'est Level 5, mais c'est pas Studio Ghibli.
Ah, c'est ça en fait.
Ouais.
Ok.
C'est toujours le...
C'est vrai que quand tu vois le trailer, c'est ouf, l'animation. Je me suis dit, bon, waouh, c'est super beau et tout. Mais c'est vrai que ça faisait pas.
Ouais, au niveau design, ça manquait un instant. Il y a un truc.
C'est marrant que Ghibli ait accepté qu'il fasse un 2.
Bah, c'est pas Ghibli, ils ont collaboré
au premier, mais c'est pas une licence Ghibli.
Mais ils doivent la co-détenir avec Level 5,
non, d'ailleurs, même Level 5, j'imagine que c'est Square Enix qui... Ah non, quoi.
Non, c'est vraiment Level 5
qui tient la licence.
Ouais. Okay. Bah, ils peuvent publier eux-mêmes, hein, ils ont les moyens maintenant.
Maintenant, ouais, effectivement, de plus en plus, tu te dis, ils ont plus trop besoin de Square Enix. Un jour, ils vont faire leur truc tout seul.
Ils vont racheter Square Enix un jour, Level 5.
Moi, peut-être pas même. Parce que là, Square Enix,
Square Enix, ils gagnent pas mal d'argent avec Final Fantasy XIV. Hein.
Rien qu'avec les jeux qu'ils font là.
Ils ont la grande question, on s'y arrive.
Non, mais là, Square Enix, ils ont tout compris. Là, c'est vraiment que ce jeu mobile. Les prochains FF, le FF7, enfin voilà, on en parlera tout à l'heure, ça va exploser. Ouais. Voilà. Donc je me fais pas trop de soucis pour Square Enix d'ici peu. Donc toi, tu disais
Ni no Kuni.
Et Fix, est-ce que t'as...
Ouais, c'est vrai que moi, c'est vraiment Ni no Kuni qui m'avait marqué. En fait, je me souviens plus trop des annonces de l'époque. Quelques semaines.
C'est ça. Alors moi, je l'ai regardé en live. C'est très tôt au Japon, c'était genre 4h du match, je crois, 3h du match. Souvent, quand tu vois les conférences de presse à l'E3, TGS ou autre, ils te parlent beaucoup de chiffres, d'argent, et on a vendu tant, machin.
Bah, de moins en moins, malgré tout.
Quand même. Enfin, et là, en fait, ce qui était cool, c'est que tu sentais, bon, vu que c'était vraiment... Ils parlaient pas à des investisseurs, ils parlaient pas à un liste, ils parlaient vraiment aux gamers.
Ouais.
Et du coup, ils parlaient vraiment que de jeux. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. C'est plaisant à regarder, même si tu sens un peu le côté non objectif de la chose.
Ah, c'est l'exercice
qui veut ça. Mais
ils auraient une histoire propre event, c'est pas pour...
Mais voilà, t'avais ce petit côté vraiment chaleureux.
Donc il y avait quoi d'autre dans la liste?
Ils ont annoncé deux trucs sur le même jeu. Enfin, sur le même jeu. Lié. Donc ils ont annoncé le remake de FF7. Dont on va parler plus tard, qui va sortir donc en exclu temporaire console sur PS4 mais qui sera aussi sur PC et Xbox.
Ah oui, ils ont annoncé
en version PC.
Ouais, voilà. Donc, on en trollera après sur ce
ouais,
Battlefield 7.
Après, ouais.
Moi, je m'en fous un peu, je t'avoue. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'est qu'ils ont glissé juste derrière. Au fait, parce qu'on savait déjà que la version FF7 de PC allait être portée sur PS4. Ça a été déjà annoncé avant, mais on savait pas trop quand. On pensait que c'était plutôt pour l'année prochaine, quoi. Vu les...
C'était pas censé être justement pour cet hiver.
Bah, je sais pas où. En tout cas, dans pas trop longtemps, mais
il y avait aucune
précision, quoi.
Ouais.
Et là, Zony. Et au fait, le jeu est disponible maintenant sur PSN.
Bah ouais.
Maintenant. Et du coup, moi, vu que j'ai regardé ça en live, je suis allé directement sur le PSN. C'est pas possible. Et j'ai regardé, il était pas sur la page principale. Je l'ai cherché avec le moteur de recherche, impossible. Il a fallu attendre le même jour. J'ai fait nuit blanche vers 1h. Vers 1h, il était sur le store. Donc ça a mis quand même 6-7 heures.
Faut l'upload, faut réorganiser le shop.
Ouais, mais il disait maintenant, tu vois. Parce qu'il y a eu des conférences de presse où ils ont fait la même chose. Et où les mecs,
ils avaient activé le truc en.
Tu regardais et c'était vraiment en direct, c'était vraiment en ligne, quoi, tu vois. Enfin, là, c'était pas le cas, mais bon, c'est vraiment direct. Enfin, c'était pas trop compliqué. Voilà, moi, c'était ça qui m'a le plus marqué, je t'avoue. Après, ils ont annoncé beaucoup de jeux qui sortaient au Japon depuis très longtemps. Yakuza 5 qui est sorti là. Ils ont annoncé. Et au fait, Yakuza 0 est en localisation en ce moment, donc il va sortir l'année prochaine aussi. Donc, c'était plutôt cool. Ils n'ont rien annoncé pour Yakuza 6, parce que bon, ça sortait d'abord au Japon, comme d'habitude. Mais bon, ça c'était cool pour la communauté occidentale. Ils ont remontré encore du Street. Ils ont annoncé tous les persos, donc Ono qui s'auto-trollait sur les leaks qu'il y avait eu et tout. D'ailleurs, il y a la finale du Capcom Event là, de Street 5. Street 4, pardon. Ils ont montré un nouveau trailer de Uncharted. Bon, ça c'est pas japonais, mais voilà. Mmh. Ah oui, il y avait eu Rez.
Ouais.
Donc ils ont annoncé. C'est marrant parce que ce qui était cool, c'est qu'il y avait Mizoguchi sur scène. Tu te rappelles, Matt, il y a un an de ça. À l'Institut français, on avait vu dans un masterclass.
C'était déjà il y a un an.
Oui, deux ans, je sais plus, ça passe tellement vite quoi. Mizoguchi, donc il était venu sur scène et tout pour présenter Rez HD. Donc je sais pas si c'est exactement la même version qui était déjà sortie sur Xbox 360. En tout cas, c'est une version qui est compatible VR. Et donc apparemment, donc je sais pas. En tout cas, en backstage, les journalistes, ils pouvaient tester le jeu en VR avec la suite. Enfin,
on a vu des photos de ça. Ouais.
Avec le costume, en fait, il paraît que c'est vachement cool.
Et tiens, d'ailleurs, ça me rappelle en fait, moi, l'annonce qui m'a le plus marqué, c'est aussi de la VR, mais c'est pas que seulement.
C'est quoi ?
C'est Ace Combat.
Ah oui,
Ace Combat. Ils avaient fait un trailer.
Effectivement.
Et donc ça sera un vrai jeu. Et
en plus,
ce qui
est dingue, c'est
VR,
que
quoi.
C'est autant Rez que Ace Combat, c'est des jeux qui se portent vraiment bien à la VR parce que tu bouges pas.
Tout à fait, ouais.
T'es assis.
Ace Combat, je veux bien, mais Rez, je vois pas.
Bah, tu marches pas, tu voles. Donc, ouais. Tant que tu voles, ton corps, il est quasiment immobile. Enfin, tu vois ce que je veux dire, si tu bouges.
Les effets.
Ouais, mais je crois que le.
En fait, c'est.
La version VR, tu voyais le personnage à la troisième personne, même dans le casque.
Oui.
Pas vraiment le cas, t'es pas vraiment le mec quoi. Alors que ouais, Ace Combat, t'es dans l'avion, tu vois. C'est un peu comme Elite Dangerous sur PC,
effectivement,
c'est plus justifié quoi.
Mais bon, je trouve que c'est deux jeux comme Games qui se prêtent mieux qu'un Half-Life ou un Call of Duty, quoi.
C'est sûr,
tu vois.
Pardon, Half-Life, moi j'ai fait Half-Life,
on y a joué ensemble,
ouais. Et vu que c'est un jeu qui est scénarisé sans cinématique, tu sais, mais t'as des tierces personnes qui parlent autour de toi, et t'es vachement plus
ça, c'est cool.
Aware, j'ai pas le mot en français là, mais tu ressens plus leur présence avec le casque,
ouais, tout à fait.
Et ça rend des personnages secondaires qui disent des petites répliques que
parce que tu tournes la tête, tu peux aller vers un mec quand ils disent, ouais, surtout Half-Life, c'est vraiment bien fait. Enfin, moi, tu vois, j'ai de l'FPS, c'est pas mon truc. Bon, même, comment il s'appelle le jeu là ? C'est le jeu scénarisé.
Bioshock.
Pourtant, j'adore l'univers et tout, mais je suis pas vraiment rentré dans le jeu, alors que Half-Life, oui. Je sais pas, c'est peut-être la façon dont les dialogues, dont les NPC sont organisés, je sais pas, mais.
C'est bizarre parce que Bioshock, il est vraiment bien mené.
Ouais, Bioshock, il est cool.
Je sais pas, moi, Half-Life, ça m'a vraiment. Du coup, c'est vrai que. Enfin, on l'a testé avec le casque, mais ça fout la gerbe quand même.
Oui, à l'époque, c'était encore là. C'est juste un mec qui a rajouté un.
Ouais.
La possibilité de le faire, mais le jeu n'a pas été fait pour la VR. Mais si tu fais le jeu pour.
Préfère les scènes de shoot. Je sais pas trop ce que ça donne. Parce que nous, ouais, on a fait l'intro surtout, donc
il y a beaucoup de blabla. Où tu vois rien.
Mais l'intro est cool, hein, parce que tu... Bon. Qu'est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y avait d'autres Last Blade? Oui, enfin, il y avait beaucoup d'annonces, beaucoup d'annonces pour le... des jeux japonais aussi pour le marché américain. Ouais. Voilà.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'a été annoncée la suite, la plus ou moins suite de Valkyrie, Valkyrie Chronicles?
Non.
Non. Ah, ou non, Kekume, c'est pas...
Non,
c'était
ça, c'était après. Ah oui, ils ont montré du coffre 14. Donc, ce qui était marrant aussi, donc, pour finir vite fait sur ce PlayStation Experience, c'est Kojima. Ah non, alors c'était pas là.
Non,
pardon,
c'était après.
Effectivement. Non, c'était, alors c'était après ou c'est avant?
Bien après, Kojima, ça date de cette semaine.
Non, 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 mais je veux dire. Non, c'était avant.
Ah non, le PlayStation Award? Non, le non. Game, les Game,
Game
Award.
Je sais pas quoi. Voilà, donc le, ce qui est présenté par Jeff Keighley, mm-hmm. Donc, qui est arrivé. Alors, au début, dans l'intro, il dit voilà, ben, je suis désolé, mais. On aurait bien voulu, d'ailleurs pas que voulu, Kojima aurait dû venir, mais des avocats de Konami nous ont contactés pour nous dire que malheureusement il ne pouvait pas venir. Donc c'était un peu après la fin de Metal Gear, de, on savait que Kojima allait partir, on pensait même qu'il allait en Chine et tout. C'était un peu là, il y avait un peu du silence entre guillemets, on attendait un peu la suite quoi.
On attendait le mois de décembre.
Et là, donc là, Jeff Keighley pour la Game Awards qui lance le premier truc, le premier petit... C'est bon, il y a encore des petits trucs avec Konami qui sont peut-être pas très clairs. Et ben par la suite, du coup, ça a été enchaîné, des news après. D'ailleurs, après le PlayStation Experience, pas trop longtemps après, donc oui, d'ici, ça a commencé avec le Nikkei et d'autres journaux qui ont en fait, Konami en fait, qui a fait aussi des
alors, Konami a répondu aux questions, bah, c'est justement sur le Nikkei en fait.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
Qui a officialisé le départ de Kojima.
Voilà, enfin. Donc le 15 décembre,
mais
apparemment.
C'était après le Game Awards, je pense.
Oui, c'est ça. C'est après le Game Awards. Mmh. Et du coup, Kojima, dans la foulée, qui annonce de son côté...
création de Kojima Productions.
Oui, parce qu'en fait, Kojima Productions a été fermé pour avoir créé Konami LA à l'époque, c'était ça,
non,
LA
Studio. Pour la version Los Angeles, mais le Kojima Pro...
Oui, oui, ce que je veux dire, mais Kojima Pro a disparu. Donc il a recréé, je pense qu'il a recréé une nouvelle boîte derrière, en fait.
Oui, c'est une nouvelle, voilà. Mais d'ailleurs, c'est Productions.
Par contre, Productions, voilà, c'est ça. Donc, avec un S. Ouais. Et avec un nouveau logo, donc qui est cool, mais...
Cool, ouais.
Il est cool, mais je trouve qu'il n'est pas parlant, en fait. Je sais pas si tu l'as vu.
Ouais, justement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut attendre de voir son prochain jeu pour...
Oui, parce qu'il va être lié au jeu, ouais, effectivement. Mais je trouve vraiment qu'il est vraiment... En tant que...
En tant que logo, il est cool.
Enfin, en tant que création artistique, si tu veux, il est cool. Ouais. Mais en tant que logo, je sais pas...
Moi,
tu vois,
il a donné une explication, Kojima. Il a dit qu'en gros, c'était...
Oui, d'accord, mais je te parle au-delà de l'explication, au-delà de trouver ça beau ou pas beau, mais je trouve que ça ne marque pas, en fait. C'est un peu, il y a trop, je trouve qu'il y a trop de détails, parce qu'un logo normalement c'est simple, ouais, et marquant, et tu l'auras d'une traite, et tu le retiens quoi. Là il y a trop de, tu vois, il y a un casque, un truc, enfin il y a trop de trucs, je trouve, dedans.
T'es habitué au logo de Foxhound, c'est pour ça.
Bah Foxhound c'est cool quoi, ouais. Comme logo, c'est la classe, c'est simple et efficace quoi, comme on veut dire. Bon peu importe, en tout cas, donc il a créé son nouveau studio, il va bosser en exclusivité temporaire apparemment. Pour un
son
nouveau
jeu.
Le
premier jeu sera son.
Exclusivité temporaire avec Sony.
Avec Sony.
Donc Sony, je pense qu'ils ont mis des thunes dedans.
Il y a moyen, bah, pour lancer le truc, j'imagine.
Voilà.
Hein.
Et voilà, on attend vraiment de voir ce que ça donne.
Ouais.
Et c'est marrant parce qu'en même temps, Konami, bah, si tu veux le dire, Konami, en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Konami,
bah, en même temps que Kojima, en gros, annonçait ça.
Ils ont fait leur offre d'emploi là.
Ouais, leur offre d'emploi pour.
Ah, j'ai pas vu ça.
T'as pas vu ça?
Non.
Bah Konami, il avait fait ses offres d'emploi pour le prochain Metal Gear.
Sérieux?
Ouais.
Il ne doute de rien, les types.
Donc c'est fou. Alors, on a un peu des échos comme ça de gens qui bossent dans l'industrie, de près, de loin, avec Konami. Et en gros, là en ce moment, c'est un peu le foutoir chez Konami quand même.
Ah bah,
apparemment, c'est. Alors, il y a eu un nouvel investisseur chez Konami. Déjà, ça a eu lieu en octobre. Vous avez vu, c'est passé de Konami à Konami Holdings. Apparemment, il y a beaucoup de financiers qui traînent chez Konami. Même le PDG lui-même, il n'a pas trop de pouvoir d'exécution et de décision pour l'instant. Tout est figé, en fait. Le temps que tout est redécidé, que l'hierarchie est refaite et que vraiment les nouveaux projets sont mis en place, en fait. Et donc en fait Konami il prépare la suite, hein.
C'est le retour, mais en même temps,
et non mais c'est marrant parce que je pense qu'ils vont relancer certains trucs.
Ils se sont tirés tellement de balles dans le pied que, ouais, ne serait-ce qu'aux États-Unis quoi, j'ai vois mal sortir un jeu écrit Konami dessus et être acclamé par la presse.
Bah si David Hedder dit, si t'imagines le prochain Metal Gear écrit réalisé par David Hedder, et là tu es bim. le retour des Demi-Teteurs.
Ouais, non.
Ça serait mort. Je serais mort derrière, quoi. Enfin bon. Donc, ça pour Konami, enfin pour Kojima.
Ouais, Kojima, mais en tout cas. Ouais, moi, en tout cas, dans toutes les possibilités qu'on avait à l'époque, quand on s'imaginait ce qu'allait devenir Kojima, on parlait de financer un projet Kickstarter, ou de faire du cinéma, ou de bosser pour une boîte chinoise et autres. Finalement, la solution qu'il a choisie, je dirais même que c'est la meilleure qu'il pouvait choisir, c'est-à-dire qu'il va faire son propre studio, trouver un publisher qui est donc Sony, c'est vachement propre, quoi. Je veux dire, c'est, il n'y a pas de faux pas, il n'est pas parti bosser pour un Electronic Arts ou Activision ou autre saloperie. Enfin, non, franchement,
il aurait pu. Je me pose une question, je me pose vraiment une question. Est-ce qu'il a vraiment voulu faire ça avec Sony, ou est-ce qu'il n'a pas fait son mendiant? Il allait voir tout le monde, il allait voir Microsoft, Electronic Arts, tout le monde, pour voir. Il a tapé à la porte de tout le monde pour voir un peu qui voulait bien l'accepter.
Ce qu'il a dit dans l'interview à IGN, c'était que, au contraire, c'était tout le monde qui était venu vers lui.
Ah.
Plein de grosses boîtes qui étaient venues.
Dont les Chinois.
Il va pas dire le contraire. Hein. Voilà.
Oui, c'est clair que.
C'est vrai ou pas, mais je pense que d'un point de vue.
Moi, l'industrie me mange de la main. Donc
mais
forcément,
en même temps, quand tu bosses chez Electronic Arts, Activision ou autre, je pense que c'est un très bon plan d'un point de vue PR. D'aller chercher un Kojima.
Oui, mais bien sûr.
Ouais, mais j'imagine bien Kojima faire le nouveau deck Hearthstone chez Blizzard.
un deck Metal Gear spécial. Non, il n'y a plus les droits maintenant.
Toutes les grosses boîtes qui sont venues le voir, il y avait notamment Sony. Et l'avantage de Sony, c'est qu'il connaissait déjà en interne des gens, parce qu'il bossait avec lui depuis un bon moment avec la série des Metal Gear. Donc ces gens-là ont dû faciliter le contrat. Et je pense qu'ils doivent lui laisser les mains assez libres chez Sony pour qu'il puisse se lancer. Quoi.
Très bien.
Et donc ouais, j'ai vu son nom, je vais voir sur sa page parce que je vais peut-être postuler. Il cherche vraiment.
Bah, tu t'emmerdes dans ton boulot là.
Bah ouais, carrément.
T'as l'air des smartphones.
Ouais. Et quand tu regardes les gens qui cherchent, ils cherchent vraiment de tout. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de créer leur boîte. Et ce qui est même marrant d'ailleurs, c'est qu'ils ont même pas de locaux en fait. C'est-à-dire que dans ce qu'ils disaient à IGN aussi, c'est qu'IGN dit bon, le studio c'est à Tokyo et tout. Il dit oui, actuellement on cherche sur Tokyo des locaux. Donc il a dû réunir 2-3 personnes qui s'étaient barrées de chez Konami à l'époque, notamment il a Shinkawa
qui
va bosser avec, donc ça c'est cool.
Et un producteur.
Oui, un producteur, enfin dans les grands noms, mais je pense qu'il a dû avoir des techs qui ont.
Il y a 2-3 grosses têtes.
Ouais, et donc il va, je pense, ouvrir un studio à Tokyo, recruter à partir de là. Ce qui est intéressant, c'est que dans les offres de recrutement, on te demande d'avoir de l'expérience soit Unity, soit Unreal Engine. C'est-à-dire qu'ils vont pas créer un nouveau moteur, c'est compliqué.
Ils vont faire
mais à tous les coups, ils vont certainement se servir d'Unreal.
Ouais.
Voilà. Autre chose, ouais. Non, ce que disait Shinkawa, il disait ouais. Donc, je vais toujours. Ce que disait Shinkawa, c'est qu'il disait, je vais toujours continuer à faire du chara design pour les futurs jeux, etc. Chara design et un peu de tout, et notamment, il a bien insisté sur le robot design. Ça m'étonnerait pas qu'on ait des robots dans le futur jeu de Kojima.
Oui, moi ça, des mechas. Rien,
ouais, mais bon, j'ai l'air.
Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il fasse un Police Notes 2.
Il n'y a pas la licence.
Voilà, c'est le problème.
Non, on verra, mais.
Ce sera une nouvelle licence.
Je pense que ce sera une nouvelle licence.
Qui c'est qui a la licence?
Bah, Konami.
Konami aussi.
Ouais.
je pense qu'il va partir sur un truc assez petit dans la mesure où ce ne sera pas MGS5. Ça sera un jeu qui, je pense, il doit viser 3 ans de.
Ça sera un jeu en plusieurs parties.
Non, il va viser 3 ans de développement, je pense, avec une équipe relativement restreinte.
3 ans plus un an de retard, donc 4 ans.
Ouais, mais un truc à propos de Konami. Là, je suis allé en Game Center avant-hier et il y a un nouveau jeu de rythme qui est sorti.
Ah, mais ça, ils y vont.
Donc, il continue en fait.
Ah non, mais Konami, en fait, si tu veux, en tout ce qui est arcade et pachinko et voilà, tout ce qui est entertainment dans ce côté-là, ils continuent, ça fait de l'argent.
Concrètement, à part les AAA, ils n'ont rien arrêté, quoi.
Oui,
et
oui,
encore
oui.
AAA, ils sortent des PES, ils vont continuer.
Ouais, mais PES, là, ils se font vraiment bouffer.
PES,
PES, là, ça. Enfin, ils ont résisté très longtemps, mais là, je sens vraiment que.
Mais ce qui est dommage, c'est que c'est un énorme gâchis pour le Fox Engine, quoi. Ils se sont fait chier à développer ce moteur, qui est vraiment un très très bon moteur.
Tout à fait. Et c'est de l'argent gâchis.
S'il n'y a plus aucun jeu qui l'utilise, c'est
de l'argent gâchis. C'est un truc de fou, quoi.
Il sera peut-être réemployé ou racheté par
peut-être.
Il a tout intérêt à le vendre.
Ouais. Bah, en tout cas, le louer, c'est comme les pics.
Ou le vouer, ouais.
Après, il faut changer.
En tout cas, tu vois, le Fox Engine, en fait, ce qui. En tout cas, de façon générale, je trouve ça cool, même si c'est coûteux et si c'est pas très rentable, sauf si tu fais beaucoup de jeux avec, de développer ta propre engine.
Ouais,
mais ce qui est cool, c'est que, en tant que joueur, moi j'aime bien avoir des trucs un peu qui sont pas comme tous les autres jeux. Et du coup, en fait, quand tu as un jeu qui a été développé avec sa propre engine, et ben du coup t'as un petit côté personnel quand même. Et c'est vrai que quand tu joues à MGS5, qu'on aime le jeu ou pas, avec tous ses défauts, et ben c'est un jeu qui ressemble pas à d'autres jeux en fait. Et tu le ressens vraiment quoi. Pour le bon, pour le pire, enfin tu vois,
c'est,
pour
c'est
bon,
un jeu qui a une vraie personnalité.
Oui, il a la personnalité.
Comme Witcher 3.
Oui, mais complètement. Complètement. Et les jeux Unreal Engine 4, tu les vois, tu le vois arriver quoi. Enfin, c'est pas dire qu'ils sont moches, hein, loin de là. Mais
non, mais c'est générique.
C'est plus générique en fait.
C'est donc, un peu le fast-food.
Ouais, c'est ça.
Il y a des points communs.
Ouais. McDo, ouais. C'est bon, mais c'est générique.
Non, mais le reste, en fait, ça, je vais pas comparer ça à McDo. Quoi.
Bah, McDo, c'est, on va dire que c'est goûtu, mais là, en fait, c'est non, c'est ça, c'est que c'est en fait c'est ultra en fait travaillé au niveau du goût, mais c'est des produits de merde.
Ouais, non, mais attends, Unreal Engine, c'est quand même différent. Tu peux vraiment faire des jeux de merde et des très bons jeux avec l'Unreal Engine.
Oui, tu peux.
C'est pas ça qui.
Non, mais je pourrais.
Il définit ton jeu, quoi, j'ai l'air, quand même.
Il reprenait ma super métaphore filée.
Voilà, j'essaie de. Voilà, j'essaie de. Mais bon, ça n'a pas trop marché, en fait. Donc, voilà, pour Monsieur Kojima. Passons de Konami à Squeeny. Alors, FF7.
Ah putain,
donc on a parlé du FF7 version PC tout à l'heure. Donc, mais ça, voilà, ça bon, on a parlé. Est-ce que vous voulez parler de FF7? Alors,
ouais,
bon. Julien n'est pas là ce soir.
Ouais, donc on peut troller tranquillement sans contradicteur.
Voilà, vous pouvez troller. Moi de toute façon,
non,
je m'en
fous. Dans les faits, on peut dire qu'ils ont montré, d'ailleurs assez étrangement, ils ont montré du gameplay. Enfin, en tout cas, ce qui pourrait s'assimiler à du gameplay.
Ah oui, c'est vrai.
Et assez rapidement, l'annonce c'était cette année. Là, ils montrent déjà du gameplay. Ça veut dire que, vu le temps qu'ils mettent pour FF15 qui n'est toujours pas sorti. Finalement, ça veut dire qu'ils ont vraiment une équipe qui bosse dessus, et c'est pas forcément l'équipe FF15. C'est très. Donc, comme on pouvait s'y attendre, c'est très action RPG, à mesure où c'est des combats en temps réel, façon Kingdom Hearts, enfin façon Nomura en fait.
Je vois du Crisis Core un peu, façon Crisis Core.
Ouais, c'est un peu.
C'est
un
l'idée,
peu,
ouais. C'est très action en fait.
Très action.
Ce qui me dérange pas.
Ce qui veut dire aussi que la vue a changé, c'est-à-dire qu'on n'est plus en vue de dessus, isométrique, bon, forcément tout est en 3D maintenant, mais. On a une caméra qui est vraiment la troisième personne, et on voit Cloud qui évolue dans des divers environnements, il y a des espèces de petites phases où il se glisse entre deux murs, il évite des trucs et des conneries, enfin on est plus proche d'un action RPG mais vraiment vu troisième personne que d'un RPG old school comme FF7 en fait.
Ce qui est en soi pas mal pour revisiter l'univers, hein, parce que encore une fois les gens qui veulent faire FF7, ils ont qu'à jouer au FF7 original.
Complètement. Mais je t'avoue que personnellement encore, mais ça c'est vraiment mon avis personnel, élitiste, enfin élitiste, non pas élitiste, comment on dit ça, pas élitiste mais
quoi donc,
ésotérique, voilà. C'est que j'aurais préféré avoir le même FF7, vraiment le même, juste avec les sprites refaits de A à Z, genre avoir un jeu où t'as pas des personnages en triangle et en cube mais avec des vrais personnages quoi. Voilà. Et tu l'as, mais le même jeu.
Ouais. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il ne fasse rien, qu'il ne touche pas à FF7.
Mais il est moche, FF7.
Ouais, mais c'est pas grave.
Bah, si, c'est.
Imaginez le nouveau FF7. Le nouveau FF7, donc, il est beau. Il est beau.
Oui, il est beau,
On peut pas dire le contraire.
Ouais.
Et il va être sous forme, apparemment, d'épisodes.
Ouais, alors ça, c'est
un. Mais alors, imaginez qu'il nous fasse un gros FF7 en y rajoutant Dirge of Cerberus. Crisis Core, en fait, ils reprennent toute l'histoire, toute l'histoire de l'univers.
Ça ferait sens d'ailleurs.
Et ils en font un jeu en fait.
Ça pourrait
épisodique ou pas. Mais moi, je trouverais ça vachement intéressant. Je trouve ça vachement intéressant de le faire de cette façon-là, quoi.
Je trouve qu'il y a une énorme perte à le faire en épisodique, c'est-à-dire que tu vas, on verra comment ils vont se démerder, mais tu vas forcément perdre le côté exploration, le fait d'aller sur la map et d'aller dans divers endroits.
Alors ça pas.
Avoir des mini-quêtes.
Pas forcément. Si tu fais bien, ouais, tu peux imaginer. Si ils font un moteur, enfin moteur, s'ils font un jeu qui prédisposait à toi, comme un MMO où tu rajoutes des quêtes et des NPC et des endroits, ça peut marcher.
Ouais, mais j'ai pas du tout l'impression que c'est le chemin qu'ils prennent actuellement. Et de toute façon, il suffit de regarder leur précédente production pour voir à quoi ça va ressembler.
Ouais, c'est pas l'open world, de toute façon.
Ça va être un FF13, hein, je veux dire concrètement, ça va être des couloirs. Je pense que les parties over the world, donc tu marches sur la map, etc., en SD, enfin en SD, où tu vois ton personnage qui est beaucoup plus gros que ce qu'il devrait être, etc.
Bah, je pense c'est une mauvaise chose, une bonne chose, je sais pas.
Moi, complètement, je veux dire, tu perds le côté exploration, tu perds ce qui faisait aussi le sel de l'univers FF7. Quoi. Aujourd'hui, en fait, tu vas enchaîner des espèces de parties scénaristiques. Tu vas perdre aussi l'intérêt, la vie, un peu le, donc le, les vies de village que tu avais dans FF16, tu arrives dans un village, il se passe une ou trois trucs, des petites quêtes à la con, des NPC, enfin, tu avais tout un monde qui vivait. Je pense que là, ça va être beaucoup plus centré sur l'histoire et sur Cloud en particulier.
C'est l'avantage et l'inconvénient en même temps.
Qui est toujours plus gai d'un épisode en épisode. Mais
il est joyeux. Il est joyeux, quoi. Il est très joyeux.
Ils te surprendront qu'ils vont te faire une carte, un SD, juste que ce sera du joli SD, quoi. C'est possible.
On verra. Mais dans les dernières déclarations de Kitase, ça n'avait pas l'air d'être l'air. Le choix qu'ils allaient faire pour cette version.
On verra bien de toute façon.
On verra dans combien de temps d'ailleurs.
Ouais, disons 2 ans.
Ouais, ça, vu que ça sera épisodique, et je pense d'ailleurs c'est l'une des raisons du épisodique, c'est qu'ils galèrent tellement à faire un jeu complet que s'ils font comme pour FF15, c'est-à-dire qu'ils sortent une démo et qu'en fait qu'ils sortent des démos qui s'enchaînent finalement, quoi, ça va être beaucoup plus simple pour eux et j'ai l'impression qu'ils sont plus capables de sortir des gros jeux, des gros FF que tu mets, qui prennent 60 heures à finir. Maintenant, ils vont sortir. C'est pour ça qu'ils ont choisi le format épisodique pour sortir des petits épisodes qui vont faire quelques heures et d'en sortir régulièrement.
Normalement, ce qui justifie l'épisodique financièrement et politiquement, on va dire, dans une boîte, surtout des petites boîtes qui ont pas forcément le cash nécessaire pour faire d'une traite, c'est que tu fais un épisode, tu caches qui rentre, avec cash qui rentre, tu fais le prochain épisode. Ça se comprend.
Ouais, mais c'est Square Enix.
Mais Square Enix, c'est du fast. Tu peux pas justifier ça de cette manière-là. Donc j'aimerais bien savoir ce qui est. Enfin, ils sont jamais prononcés. Pourquoi
sur l'épisodique, non. Voilà. Ils ont jamais expliqué, mais pour moi c'est assez clair dans cette façon. Tu les vois galérer avec FF15, quoi. Et tu as vu galérer avec FF13 avant.
FF13 d'ailleurs, c'est marrant parce que FF13 apparemment c'était tellement de bordel. Chacun développait un truc dans son coin. Et avec des game designers dans 5 coins, apparemment ça se mélangeait dans tous les sens. Et à la fin, ils ont fait un gros mix avec un couloir. Non mais c'est vrai, c'est apparemment le développement c'était vraiment ça.
On va voir le 15, c'est assez apocalyptique aussi.
Mais là pour toi, sont le 15 en ce moment, ils sont en Australie en train de prendre des photos des rochers,
du
Big Rock Higher là, pour affiner leur technologie rocher dans le jeu.
Mais le rocher c'est très important dans le jeu.
C'est important. C'est pour ça qu'ils l'ont montré en priorité alors que le jeu n'est pas fini. Et la pêche aussi apparemment, la pêche
et le chocobo très, très et
C'est marrant parce que la pêche c'est Zelda qui l'a inventé.
Oui, il est peut-être avant, non?
Non, je rigole.
Zelda, t'es sûr? Et non, mais dans EverQuest, tu pouvais pêcher.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Voilà. De base, c'est le truc. C'est tellement basique, c'est tellement. Ouais,
le mini-jeu de pêche, c'est quand même.
Un mini-jeu de pêche, waouh!
Ouais. Grande trouvaille chez Square Enix.
Pêcher en veste en cuir, c'est cool avec l'UTT qui t'attend derrière et avec les dinosaures.
C'est juste fou qu'ils aient montré ça alors que le jeu est pas fini. Les mecs, ils ont pensé quoi dans la com, quoi? Ils ont dit, on va montrer des trucs qui servent à rien alors que le jeu est pas fini. Il pensait que les gens allaient réagir comment, quoi. Ben, je sais pas, moi ça me...
Bon, on verra, mais malgré toutes les saloperies qu'ils font sur FF15, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un certain public qui suit.
Mais oui.
Et qui va acheter le jeu quand il va sortir, alors que pourtant, Julien. Tous les gens qui suivent un peu les news et qui sont de bonne foi, c'est-à-dire pas Julien, ça se voit que ça va être une grosse dope ce jeu.
Ah, je dirais pas ça.
Mais
ça
trouve c'est pas ça, les gars. Je vous dis, achetez la version FF7 qui est sur le PS1 en ce moment, elle est cool. Elle est moche, mais elle est cool.
Je l'ai en triple sur PS1.
Tu l'as déjà acheté la version PC?
Non, la PS1.
Oui, mais c'est la version PC qui
est.
Les trophées.
Il y a les trophées. Et en plus, non, mais ce qui est cool, en fait, c'est marrant parce que moi j'ai commencé à jouer et tu peux. Alors, t'as des fonctionnalités en plus. Tu peux accélérer x2, x3. Tu peux gagner les combats sans rien faire avec un bouton.
Bim. Ah oui, ils ont mis le debug menu dans le truc.
Ouais, en fait, c'est ça.
Tu gagnes les combats avec un bouton?
Oui.
En gros, tu te remontais les vies. Avec
non, tu pardon, oui, effectivement, tu remontes les vies, mais c'est pareil, quoi. Je veux dire,
d'accord.
C'est, mais c'est ça, comme Fix dit, t'as le mode debug qui est activé dans le jeu. En fait. C'est énorme.
Et d'ailleurs, il y a eu un super article de Kotaku qui disait que c'était bien et que FF7 c'était mieux avec le mode debug que sans mode debug. C'est assez incroyable.
Bah, ils ont raison.
J'ai presque, franchement, j'ai.
Ils ont raison. À partir du moment où t'as fini le jeu.
C'est ça.
C'est nouveau dessus.
C'est ça. C'est que quand t'as noté ce jeu-là, je l'ai fini 2-3 fois. En fait, c'est très marrant de le refaire comme ça et de pour tous les trucs que tu connais qui sont parce qu'il y a quand même des phases un peu chiantes dans le jeu, bah tu les accélères et en fait ça se passe très bien.
Ouais, enfin, c'est pour vraiment encore une fois speedrunner quoi.
Non, même pas. Mais encore une fois pour les gens qui ont déjà fini le jeu.
Mais là, l'article en question, c'est un type qui découvre FF7 avec ce jeu.
Ouais. Bah il a pas le temps. C'est un mec qui est très occupé. Ah, chez Kotaku et créer
des façon de consommer les jeux a complètement changé.
C'est vraiment la consommation de jeux, c'est vraiment ça.
Bah oui, en fait, il y a de ça aussi. Ouais.
En 10 ans,
c'est fou. Parce que j'aimerais bien un Shadow of Colossus à accélérer, ce serait bien.
Non, arrête.
Non, mais
arrête.
Laisse-moi un peu être un peu ironique, voire cynique. Bon, voilà. Prochaine news.
Prochaine news.
C'est bon, là, ça devient. En fait, c'est inintéressant.
C'est
inintéressant. Julien Merceron.
C'est Bandai Namco, ouais.
Ouais. Donc c'est un mec qui a commencé chez Atari, plus ou moins, qui est passé chez,
Ubi.
Qui est passé chez Ubi. Et après chez Ubi, qu'est-ce qu'il a fait avant? Après, juste avant, il était chez Ubi avant.
Il était chez Ubi, il a bossé sur Rayman et compagnie.
Ouais, okay. Non,
et après, il est passé chez Eidos. Et voilà. Comme il était chez Eidos, il s'est fait racheter par Square Enix. Donc il est passé chef technologie chez Square Enix. Et après,
donc c'est un mec qui programme depuis 30 ans. C'est un peu le Carnac français.
Ouais, enfin du coup.
Il l'a depuis longtemps. Voilà.
Bah, j'imagine qu'il va encore faire un moteur. un engine chez Bandai MK. Chez Bandai. Chez Namco Bandai.
Bandai Namco Bandai. Je sais jamais parce qu'ils ont vu quand ils ont fait Bandai, ils ont changé deux fois de sens.
Ils ont inversé après.
Ouais. Apparemment, il y a eu une masterclass en France, enfin à Paris.
Hier,
donc je sais pas. Je sais pas s'il a expliqué son parcours, si c'est plus un truc vraiment de game design, enfin game design de programmation pure et dure. Je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est comme news assez importante. On ne sait pas. Par contre, c'est Europe, Bandai Namco Europe.
C'est Japon. Il est toujours
Japon.
Japon.
Ouais, okay.
Il est vraiment toujours au Japon. Il bossera sur les Tales of et compagnie. En fait, il bossera sur les technologies internes de chez Namco, donc potentiellement sur un impact sur les Tales of. Mais du coup, je le vois très bien. Enfin, sa spécialité, c'est les moteurs graphiques. Il pourrait très bien faire un moteur graphique ou en tout cas améliorer les outils actuels chez Namco.
Oui, parce qu'il y a de quoi faire.
Voilà.
D'ailleurs, on parlait, enfin, juste pour revenir vite fait, j'avais oublié de le dire en fait, pour revenir à FF7, le remake, il bosse avec CyberConnect apparemment.
C'est ça, Bandai Namco il bosse avec CyberConnect aussi.
Ouais. Donc,
je comprends pas ce que vous voulez dire en disant, enfin, le moteur 3D, enfin 3D, les jeux faits par CyberConnect, on prend ça en Naruto, ils sont juste magnifiques quoi.
Les Tales of
sont très beaux.
Oui, par contre,
il peut améliorer un moteur parce que c'est beau que ça peut être, ne peut pas être plus beau.
Par contre, il y a d'autres jeux Namco Bandai qui sont très très vides, j'ai envie de dire.
Ben c'est sûr qu'ils sont.
Tu prends les Mousseaux, n'importe quel Mousseau, c'est quand même. C'est
ouais. voilà.
Je comprends pas qu'ils modélisent bien les personnages, même s'ils sont un peu rigides, mais c'est plutôt cool en fait, les armes, les armures et tout. Et après, tu vois le paysage, c'est un triste, c'est vide, c'est plat. Enfin, c'est.
Ça dépend des équipes. Après, je sais pas, ça dépend aussi de la technologie qu'ils utilisent. Chez CyberConnect, c'est beaucoup d'Unreal Engine. Hein.
D'accord.
Et d'ailleurs, FF7 Remake est un Unreal Engine 4.
Oui, effectivement, ça a été confirmé.
Donc ça n'empêche, c'est intéressant, c'est le premier gros projet de chez Square Enix depuis un bon bout de temps qui n'est pas une technologie interne.
Crystal Machin là.
Ouais,
ils ont fait quoi de leur gros moteur où ils avaient fait une démo il y a 2 ans, je crois, maintenant.
Mm. Ah oui,
Moyen-Orient là, avec les espèces de mouches qui volent partout.
C'est machin Igni, je sais pas quoi là.
Ouais.
Avec la sorcière et machin.
C'est ça, ils ont fait aucun jeu avec ça.
Ils ont fait aucun jeu pour l'instant.
Tu vois pas, Chris, tu remets pas.
Bah, FF15.
Non, il y a plus.
Il y a des mouches, non? Pas des tapettes, enfin, c'est pareil.
C'est vrai que je pense que c'est un moteur.
C'est quoi, il y a les mouches et les tapettes. Donc...
C'est vachement intéressant de voir que pour leurs deux grosses licences qui sont Dragon Quest, donc le 11 et FF7 Remake, ils utilisent Unreal Engine. Ils n'utilisent pas donc leur moteur interne.
Leur nouveau moteur, on n'a rien eu depuis. Quoi. Ouais. Alors que c'était magnifique ce qu'on avait pu voir. Quoi.
Soit il n'est pas prêt, soit ils ne sont pas confiants, soit ça prouve qu'en interne, c'est pas si facile pour eux de développer des gros jeux chez Square Enix.
Surtout que Square Enix, en fait, quand tu analyses vraiment la boîte, l'évolution qu'elle a faite, ça devient de plus en plus une boîte, pure boîte de distribution que de production.
C'est ça, c'est une coquille.
Et il y a très très peu de jeux vraiment qui sont faits en interne.
Pour expliquer aussi, c'est-à-dire que si les jeux sont faits en externe, c'est très compliqué aussi de les former sur le tools interne, etc. Alors que si tout le monde bosse sur Unreal Engine, au moins tu peux bosser avec n'importe quelle équipe au Japon et ça fait bosser dessus quoi.
Et voilà, effectivement, si tu as un projet où tu sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de studios différents, des outsourcing à gauche à droite qui sont faits, bah si tu mises sur un moteur que tout le monde plus ou moins connaît, bah là ça marche. Par contre, effectivement, si tu fais un moteur interne, il faut former les gens et tout, ça marche que quand un jeu que tu fais 100% d'un
coup. J'espère qu'ils feront quelque chose avec hein, parce que j'attends de voir hein,
pas moi. Moi j'attends Dark Souls 3.
Ah oui, Dark Souls 3, ça va être dans 3 mois, mec. Dans 3 mois.
Je sais, en mars, putain. D'ailleurs, oui, maman, on parlera tout à l'heure. Bon, faut avancer.
Il reste un quart d'heure. Hein,
ouais, il reste 20 minutes. Quoi.
Avant que les gens arrivent.
Donc, on avait dit, oui, vite fait, pour parler encore de jeux japonais, que donc, plus ça va à Steam, ça explose. Les Japonais, les Japonais, ils découvrent Steam, et c'est l'île d'Eldorado pour eux maintenant.
Parce
donc,
toi,
tous les jeux, tout se vend. Et ça se vend, mais vraiment très bien, quoi. Et donc là, FF6, qui porte la version FF6 qui était déjà sur iOS avant, qui est un peu chelou, hein, parce que t'as les décors de l'époque avec les nouveaux personnages collés dessus. C'est horrible. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très laid, mon principe personnel. Mais... voilà, il s'est sorti sur Steam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Steam? FF10. et 10.2 HD.
Sur Steam, j'ai pas suivi.
Qui va sortir, qui va sortir.
Déjà le 13.2
et Danganronpa. Danganronpa.
Qui va sortir aussi. Donc, prévu, mais...
Ouais. Alors c'est vraiment, enfin, genre si ça continue comme ça, bon, tu dis, bah, j'achète un PC, j'ai tous les jeux. Enfin, je pense.
C'est ce que j'ai fait, mec.
Oui, non, mais c'est pas encore le cas. Mais si ça continue comme ça dans 10, 15, 20 ans, je sais pas comment ça se passe.
Honnêtement, cette année, à part Bloodborne, qui est une excuse,
bah c'est vrai
j'aurais
que...
pu tout faire sur PC. J'ai fait Metal Gear sur console par choix.
Ouais.
Pour
mais t'as pu le faire
sur
PC.
J'aurais pu le faire sur PC. J'aurais pu tout faire sur PC.
Donc, à part Bloodborne, il n'y a pas d'exclus que toi qui.
Ouais, on en parlera dans, dans les jeux que j'ai fait.
Ok. Voilà. Juste pour comme ça, on parlait de jeux japonais. À vous rappeler FF13 qui a été lancé sur Android et iOS en streaming. Ils ont fait pareil avec Last Remnant maintenant. Donc ces jeux complètement oubliés, sortis sur X36 à l'époque. Tu peux jouer sur ton téléphone portable.
Bien. En plus, c'était un jeu de merde. Je l'ai pas fait, mais les feedbacks que j'ai eu,
C'est les jeux de Miss Walker de l'époque.
Ça serait bien,
c'est
Lost Odyssey.
Ah voilà, je confonds ça avec Lost Odyssey. Mmh. Ça me revient maintenant. J'y jurerai pas, voilà. Mais c'est intéressant de voir aussi que ils exploitent. Enfin, toi, les Japonais, ils vont vers Steam, ils vont vers iOS et ils n'hésitent pas à faire balancer des grands RPG.
En même temps, là, c'est facile. Je veux dire, c'est des jeux qui sont déjà faits, qui ont déjà coûté des millions d'euros à faire.
C'est un peu gênant dans un sens parce que t'as l'impression qu'ils font ça juste pour le fric, quoi.
C'est
pas une impression, c'est ça. Ouais. Mais du coup. Nous, ce qu'on demande aux Japonais, c'est de renouveler l'univers vidéoludique et d'être innovant, pour se faire du fric, quoi. Pas pour exploiter des licences.
Avec F15, c'est bien. Square Enix qui va te faire ça.
Mais moi, ça me désole.
C'est pour ça qu'on joue à Undertale.
Exactement.
Voilà. Donc, on parlait vite fait pour rajouter ça. Tout à l'heure, on parlait de l'émulateur PS2. Donc, il y a pas mal de petits jeux qui ont été annoncés. Donc, j'arrive jamais à prononcer. Parapapa 2.
Voilà. Retour.
Donc ça c'est vraiment cool. Ce qui est vraiment dommage, c'est que ces jeux-là, tu peux pas y jouer sur Vita, mais bon. C'est un petit jeu rhythm game comme il s'appelle le petit jeu qui est en noir et blanc avec les petites, c'est comme les insectes là. Qui sort PSP. Patapon. Ça se prête très très bien. Donc un petit parapapa. D'ailleurs, il y a des versions PSP aussi, si je dis pas de conneries. Non, c'est les versions PS1 que tu peux jouer aussi sur PSP et donc sur Vita. Voilà. Autre chose ? Non, ça c'est bon. Alors, maintenant, avant de passer à la dernière partie de ce podcast qui va être nos GOTY, les jeux qu'on a fait et puis un résumé de l'année vite fait, les Media Create Sales, donc en gros les chiffres.
Les chiffres, ouais.
Donc on va pas refaire tous les chiffres du mois parce que ça va être long, mais quand même. Deux, trois petits jeux qui sont sortis qui sont très intéressants, dont un jeu qui s'appelle Monster Hunter. Matt, je l'ai acheté et je me suis remis à me former. J'ai rejoué à Monster Hunter depuis très 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 longtemps. J'avais joué un petit peu à l'époque du 2 sur PSP. Et depuis que sorti sur 3DS, voilà, c'est déjà sur PSP avec la, comment ça s'appelle, c'est la claw, donc la griffe, ça, la griffe japonaise.
La griffe japonaise.
Tu déhaussais tes doigts pour jouer à ça. Sur 3DS, c'était pareil, c'était horrible. Maintenant, t'as le stick clitoris.
C'est vrai, maintenant que t'en parles, ça fait depuis 5-6 ans qu'on n'a pas eu un Monster Hunter jouable normalement. Entre guillemets.
Et c'est ça. C'est pas pour. Enfin, objectivement, je dis, et tout le monde serait d'accord pour dire ça, c'est que ce jeu, il a sa place sur Vita, mais c'est juste parce que Nintendo a payé la licence que tu es obligé de t'exposer les doigts. Bon, Mental Stick avec le stick clitoris de la 3DS, la New 3DS, ça marche, mais bon. Bon, on va dire que Monster Hunter, ça a toujours été. Ça n'a jamais été très accessible comme jeu au niveau des contrôles, on va dire. C'est très lourd, très. Japonais, alors la caméra elle est pas super optimale quand même. C'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement au départ, de ajustement et d'adaptation au gameplay parce que c'est vraiment pas naturel et intuitif.
De plus en plus simple quand même.
Mais ça c'est parce que tu joues beaucoup. Une fois que tu joues beaucoup, après forcément tu t'y fais et tout. C'est comme Bloodborne, c'est comme les Dark Souls, comme les Souls en fait. C'est un gameplay que faut que tu t'assimiles en fait au départ. Une fois que ça assimile, après ça, ça passe nickel. Mais c'est pas. Quand tu vois les jeux occidentaux à côté, c'est un gameplay qui est pas du tout. Enfin, c'est quasiment opposé à l'intuitivité des jeux occidentaux. Quoi. Mais en tout cas, ce jeu Monster Hunter 10, en 2 jours, il s'est vendu à 1,5 million. En deux jours. C'est monstrueux, quoi. C'est vraiment monstrueux.
Ça fait bien longtemps qu'en Japon, on n'avait pas une sortie aussi.
C'est
fin. En 2 jours, combien ?
En 2 jours, 1,5 million.
1,5 million ? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est fou.
C'est les chiffres que j'avais.
C'est vraiment fou, quoi. Enfin, et je crois que maintenant, ils sont quasiment 2 millions déjà.
Ils ont dépassé les 2
millions. C'est Monster Hunter, c'est le nouveau Dragon Quest, quoi.
Oui, mais tu vois, justement, Dragon Quest, enfin là, c'est que des portages, c'est pas de nouveau. Mais les portages Dragon Quest sur 3DS, ils sont pas très bien vendus.
Attends de voir le 11.
Oui, c'est ça. Par contre, alors, les portages pas super bien vendus, mais les Dragon Quest Heroes sont très bien vendus. Ouais. Donc là, le 11, effectivement, le Builders, je vous dis, les Japonais, ils ont découvert Minecraft avec la Vita. Le Dragon Quest Builders sort sur Vita et PS4. Peut-être PS3, si j'ai pas connu, je sais plus, je m'en rappelle plus. En tout cas, PS4 Vita, c'est sûr. Avec la console portable Vita, collector, qui est super belle en gris avec le slime et dessus. Et tout. Je pense que ça va cartonner. Donc, il y a ça. Et puis après, un autre jeu qui a vraiment cartonné aussi. Pareil, donc c'est un jeu. Là, je crois qu'il a fait. Ils ont fait 1 million. Pareil, 1 million en 2D. En 2 jours.
Monster Strike.
Donc, il est sorti en accident, Monster Strike, ouais.
L'application est sortie en accident, voilà. Il me semble.
Ouais, donc le jeu iOS et Android.
J'ai beaucoup pratiqué la version iOS.
Voilà. Qui était plutôt. Enfin, pour un jeu mobile, on va dire que c'est plutôt bien pensé, non? Parce que
franchement, c'est
l'argent.
C'est au-delà de Puzzle Dragon, ouais. Et tout ça. Vachement.
Mais par contre, donc, c'est quoi les phases de combat? Parce que dans Puzzle Dragon, ce qui était cool, comme c'est un petit puzzle game qui est bien pensé, la mécanique elle-même, elle est bien pensée. Comment ça marche
en fait, Monster Strike? Chaque monstre est une sorte de bille ou de boulard.
Ouais.
Et tu vas avec le doigt étendre comme un élastique à partir du centre de la bille vers l'extérieur, et il va partir dans le sens opposé avec plus ou moins de force selon que tu as étendu ou pas. Et quand tu touches les adversaires, tu leur fais perdre des vies en fait.
D'accord.
Et tu peux rebondir sur les murs et tu joues avec la physique des billes pour
D'accord.
pouvoir toucher tout le monde.
Intéressant.
Et quand tu touches d'autres billes à toi, tu déclenches leur pouvoir. Des pouvoirs électriques,
donc tu fais des combos en fait.
Tu fais des
team attaques avec les combos que
c'est ça, c'est ça.
Ah, c'est intéressant ça.
Donc tu dois à la fois toucher les ennemis.
Est-ce que
tu
as des multi-billes comme dans les flippers?
Des multi-billes,
c'est-à-dire qu'en fait tu as des multi-balles.
Tu peux en bouger qu'une à la fois, elle rebondit, après elle touche les autres, ça les fait bouger aussi.
D'accord.
Et après tu as les skills de chacune qui ont des. Donc il faut faire ton équipe de façon à ce que. Tu sais, tu as les éléments, toujours pareil, feu, eau, vent, machin.
Ouais, bah tout classique quoi.
L'art est très joli.
Non, j'ai vu l'art.
Il y a pas mal de collabos sympas, pareil, Evangelion.
Oui, mais ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes que
Puzzle Dragon.
Voilà.
Mais j'ai beaucoup plus accroché à Monster Strike. Je suis arrivé à un haut niveau par rapport aux autres.
Okay.
C'est très bon. Et tu peux jouer Puzzle Dragon, tu peux pas jouer avec quelqu'un. Alors que avec Jennifer.
Ah, tu peux faire les donjons à deux.
Local,
ça, c'est vraiment le truc qui manquait.
Ça, c'était super cool.
Ah, ça, c'est cool. Non, ça, j'avoue, ça, c'est bien. Ok, cool. Donc voilà, ça c'est pour les sérieux. Après, il n'y a pas eu vraiment de grosses sorties, enfin vraiment bourrin.
On a vu que Splatoon est bien monté dans les charts aussi.
Oui, alors j'ai vu, et Splatoon n'a toujours pas atteint le million au Japon.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, c'est étonnant.
Uniquement au Japon. Donc c'est un succès modéré, mais pour une console aussi mal installée. Par contre, ça cartonne aussi.
C'est du long terme.
Oui, bien sûr. Moi, j'attends toujours la version 3DS.
Mais moi, j'aurais le temps, j'ai envie d'y jouer à ce jeu. J'aurais le temps, j'y jouerai, mais j'ai pas le temps.
Bah, c'est que t'as le temps, mais t'as d'autres priorités.
J'ai d'autres priorités que celui-là.
Ouais. Au niveau jeu, quoi. D'ailleurs, on va parler de nos priorités. Donc là, parce qu'on est arrivé, donc quand même, j'ai envie de dire le truc moi qui m'intéressait le plus de ce podcast de fin d'année, parce que oui, au Japon, il y a ce qu'on appelle les bonen, pas les bonas, mais les bonen, donc les bonenkai.
C'est
donc
les
bonen,
en fait.
Les bonen, c'est en gros les fêtes de fin d'année au Japon. Donc c'est toutes les boîtes, en fait, c'est par bout, ils s'organisent par bout, donc par département. Et chaque département fait sa fête de fin d'année. Donc tu tapes toutes tes fêtes de fin d'année de ta boîte, plus les fêtes de fin d'année de tes potes. Donc des potes alors d'enfance, des potes de ta boîte. Ou par exemple, tu fais des clubs de foot, bah, eux aussi vont faire un Bonenkai. T'as un club de je sais pas quoi, de go, bah, eux, paf, Bonenkai. Donc tu week-end toute la journée, enfin tous les jours. Tu veux dire. C'est non seulement le week-end, mais aussi la semaine. Quoi. Enfin, c'est. Voilà quoi.
C'est dur.
C'est dur, c'est dur.
Pour le porte-monnaie aussi.
Oui, pour le porte-monnaie aussi. Bon, après, si ton tabac qui paye, ça va. ce qui est rarement le cas.
J'ai jamais eu une boîte qui payait un bon MK.
Ouais. Bah, si tu bosses en finance, c'est normal.
Tous des requins.
Tous des requins, ouais. Bon, voilà. Parlons de Gauthi. Donc, c'est parti, Gauthi.
Ben alors, ok, allez, bah, je commence alors. Alors, Gauthi. Je te vole les Gauthi.
Bah, de toute façon, on a quasiment les mêmes Gauthi. Bah, on va dire. Avant de parler de ton le jeu ultime ou les jeux ultimes que tu as fait, c'est un peu comme ça c'est quoi les jeux, on va dire les 5-6 jeux comme ça de mémoire qui t'ont marqué cette année.
Alors de mémoire, moi, ce qui m'a marqué cette année, mais c'est vrai que quand on commence une année, en fait, on oublie les jeux de début d'année.
C'est ça.
Là, j'ai aucune idée de ce à quoi j'ai joué en début d'année. Mais alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est Bloodborne, et je compte le DLC.
Oui, bah, moi,
Bloodborne, Witcher 3.
Ouais.
J'ai beaucoup joué à Final Fantasy XIV.
Ouais.
Je me suis mis récemment à Hearthstone.
Ouais.
Et j'ai fait également pas mal de. Ben, en fait, depuis qu'il est sorti, de Monster Hunter. Ce qui est intéressant parce que Monster Hunter, j'ai essayé 3 fois quand même. J'ai essayé avec le tri.
Ouais.
J'ai essayé avec le 4 et le 4G.
T'as jamais,
jamais vraiment accroché. Et là, par contre, avec le cross, ça y est, là, je suis.
À cause des styles
À cause des styles et parce que au final je me suis donné la priorité de jouer à ce jeu-là en fait.
Bah c'est ça en fait, c'est un jeu qui demande quand même beaucoup d'investissement parce que enfin, on a fait un petit Monster Hunter Kai en fait, un meet and play au flashback ici avec pas mal de monde et tout. Et c'est la première fois que je me suis vraiment remis un peu à jouer à Monster Hunter en fait. Et c'est ça que c'est sympa parce que toutes les quêtes FedEx à la con où tu vas chercher des petits trucs et tout, où t'es juste un Triceratops ou je sais pas quoi. Ou un singe ou quoi, mais tout seul c'est chiant. À plusieurs ça va vite.
À plusieurs c'est super.
Et ça rend sympa. En fait c'est comme du PSO quoi.
Et enfin, en fait
c'est un peu l'idée.
En fait moi j'ai vachement découvert Monster Hunter, paradoxalement, j'ai regardé ma liste de jeux que j'ai fait cette année, avec Final Fantasy Explorer qui va bientôt sortir en Europe d'ailleurs. Mm-hmm. Parce que c'est exactement la même chose. Et Final Fantasy Explorer, je l'ai pratiqué énormément online.
Okay.
Alors que les Monster Hunter 4G et tri, j'ai jamais vraiment osé aller online parce que tu connais pas le jeu, t'as peur de mal jouer.
Bah, c'est vrai qu'au début c'est un peu intimidant, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quoi. C'est... En fait, il y a tellement de trucs à faire, tu sais même pas comment commencer. Donc des fois, moi j'ai commencé par le tutoriel. Quoi.
Ouais. D'ailleurs, je regarde ma liste et il y avait Monster Hunter 4G en début d'année, hein. Il y a un an.
Ah bah c'est vrai, parce qu'on l'a...
Il y avait le 4G en fait.
Parce qu'on l'avait fait au TGS et...
C'est ça. Donc c'est...
De l'année dernière.
Ils ont sorti un nouveau, en un an ils ont sorti un nouveau.
Bah tous les TGS, il y a un nouveau Monster Hunter. Donc, après, il y aura le X Ultimate. Donc,
Sinon, pour revenir au jeu, alors Persona Q que j'ai fait, qui est excellent. Talos Principle sur PC.
Ouais.
Et Bravely Second que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais qui, enfin, si vous aimez Bravely Default, Bravely Second,
ça fixe
bon,
la foutage de gueule du 1 ou quoi.
Mais je suis pas allé assez loin. Pareil, il y a un truc un peu à la con comme ça.
Tu refais tout le 1 en fait.
Mais c'est vrai.
Enfin, tu reviens au même endroit que le 1.
Ouais, en fait, c'est ça. En fait, pour chaque endroit où tu reviens dans le même endroit que le 1, t'as un nouvel endroit. Donc, t'as la moitié du jeu où les endroits sont recyclés. L'histoire est différente, mais les endroits sont recyclés. Mm-hmm. Donc, c'est une suite directe, quoi. Ouais. C'est normal, ouais, en même temps. Après, Her Story.
Her Story, ça, j'ai voulu le faire cette année. Je pense que j'aurai pas le temps, mais.
D'accord.
Il est vraiment sur ma liste, quoi.
Et bien sûr, je cite que les notables, hein. Et bien sûr, Metal Gear Solid 5. Mais bon, voilà. Mais. Si tu veux que je parle de mes Gauthier en
voilà,
même,
dans cette liste exhaustive, est-ce que tu ou non exhaustive en fait, c'est ça, pour essayer de comment dire, parce que c'est un Gauthier, c'est un peu en conflit quoi, avec soi-même, parce que des fois t'as des jeux, t'as deux ou trois jeux, tu sais, t'arrives pas à les départager. Mais là, ton Gauthier japonais et ton Gauthier occidental.
Bah, mon Gauthier japonais, c'est clairement Bloodborne.
Ouais.
Mon Gauthier occidental, c'est clairement Undertale.
Voilà.
Undertale. Witcher 3 est bien, est très bon. Mais je le trouve en termes de ce qu'il a pu me faire ressentir un tout petit peu en deçà de Undertale.
Ok.
Et après, moi, j'ai une troisième catégorie que j'appelle la catégorie des jeux infinissables. Où je mettrais.
Ah, tu joues pendant 5 ans.
Je mettrais Final Fantasy XIV, Hearthstone et Monster Hunter, mine de rien. Parce que, voilà. Ces jeux, tu les finis jamais. Quoi, tu peux... voilà, donc ça, c'est pour mes Gauthier.
Très bien. Et fixe.
Il est bien. Moi, si j'essaie de me rappeler un peu ce que j'ai fait, je crois que j'ai commencé l'année avec Psycho Break.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que je l'ai commencé en 2014, mais je l'ai fini en 2015. Après, il me semble avoir joué avec, j'avais fait Peace Walker en préparation de MGS5. Donc MGS5, Xenogears, enfin le Xenoblade Cross, les Fire Emblem If, les deux. Et là, en fin d'année, j'ai fait The Banner Saga. Alors, c'est un jeu de 2014, pas de 2015, mais je l'ai fait en 2015.
Mais qui est excellentissime. Voilà. Les musiques sont les mêmes. C'est le même gars qui a fait les musiques de Journée.
Ah ouais.
Winter. Je me suis nul en nom, mais Winter.
Oui, je sais même que la chanson, le thème principal, quand c'est la meuf qui chante, c'est Maluka, la meuf qui avait fait la.
Journée aussi.
Qui a fait Journée, mais qui avait fait la voix de. Enfin, pas la voix, là. Qui a fait une reprise de Dragonborn. Donc,
Skyrim,
sur Internet, qui avait subi un moment.
Oui, je vois là qu'elle sait. Ouais.
Et donc, ouais, si je devais. Enfin. Dans le jeu qui m'a peut-être le plus marqué cette année. Alors, en fait, je trouve que c'est tous des très bons jeux, mais c'est tous des jeux qui sont imparfaits. C'est-à-dire que j'ai pas joué cette année à un jeu que je trouvais parfait. À part. Non, franchement, non. Mais celui qui m'a vraiment. C'est Metal Gear Solid 5.
Ah, quand même.
Ouais, okay. Parce que vraiment, il a vraiment une personnalité. Puis maintenant, c'est 80 heures où tu. Puis quelque part, c'est un jeu que t'aimes à détester aussi. C'est-à-dire que tous les défauts qu'il a, t'aimes bien revenir dessus, etc. Mais c'est-à-dire que s'il te marque tellement ses défauts, c'est parce que derrière, ton jeu, t'aurais vraiment aimé que le jeu il soit parfait, quoi. Et c'est un jeu qui a vraiment marqué. Et donc, MGS5. Et sinon, alors du coup, c'est 2014, mais The Banner Saga que j'ai fait très récemment. Putain, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Il est vraiment très très bon. Déjà, en fait, c'est le genre de jeu que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire.
Strike Arena, c'est presque ça.
Ouais. Et les Vikings, il y a un peu de tactique, mais bon. Et c'est vraiment. Alors, dommage qu'il soit court.
Ah, qu'est-ce qui t'a plus. Bah, c'est pas forcément un tort. Parce qu'il y a le 2 qui arrive, donc.
Ouais, voilà, il y a un 2.
C'est une trilogie.
Ouais, c'est une trilogie.
Voilà, donc.
Mais c'est vrai que vraiment. Enfin, vraiment très très bien.
C'est quoi, c'est les animations, c'est le scénario, c'est
les
voix.
L'univers est vraiment exceptionnel.
L'immersion est ouf. Hein.
L'histoire est vachement bien racontée. Les persos sont cool.
Ah, le gameplay, c'est tactical, c'est ça?
C'est un tactical RPG en plus. Alors, avec des. Très simple, mais avec du vrai parti pris. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que ta vie et que ta force, ça soit la même stat.
Mm-hmm. J'en avais parlé, ouais, il me semble, au podcast.
Ouais, ouais,
l'année dernière.
Ouais, enfin, cette année, au Beat Summit.
Mais j'en avais parlé bien avant aussi de ce jeu. Parce qu'il m'avait marqué, c'est justement ce système de tactical qui est différent. On n'a jamais vu ça dans un tactical. Où, en fait, tu tapes aussi fort que tu as de vie. Donc c'est à dire que plus tu te prends de coups, moins tu vas taper fort, ce qui est proche de la réalité,
ce qui est assez logique, ouais,
et je trouve ça super. Et du coup, ça te mindfuck complètement, parce que j'ai pas réussi à faire des parties propres,
ouais,
tacticalement parlant, parce que t'as pas l'habitude de réfléchir de cette façon là et c'est vachement dur de.
Et un autre truc assez intéressant aussi, je trouve, c'est la monnaie. C'est à dire qu'en gros, ton expérience, ta monnaie et donc la réputation, c'est la même chose. C'est à dire que tu ne gagnes qu'un seul truc quand tu fais dans le jeu, tu ne gagnes qu'une seule unité, c'est la réputation. Cette réputation te sert à acheter de la bouffe pour ta troupe, à pixer, c'est-à-dire à faire monter en niveau tes unités, et acheter des objets pour améliorer tes stats. Et c'est, enfin, il y a que ça, et c'est ce que tu gagnes en combat. C'est il y a qu'une seule unité. Enfin, c'est vachement intéressant parce que c'est finalement très simple.
Plus t'as d'argent, plus t'es réputé. Donc.
Ah, mais du coup, tu dois faire des choix, en fait. C'est-à-dire que en plus, c'est assez limité parce que les combats, finalement, il n'y a pas énormément de combats dans le jeu. Tu dois choisir entre faire monter le niveau de tes persos, acheter des artefacts, ou alors payer à bouffer pour ta troupe pour que le moral soit haut. Et il faut que tu jongles entre ces trois choix. Je trouve ça assez intéressant.
Parce que pendant tout le jeu, en fait, c'est l'histoire d'une fuite, hein, donc, mais qui a été mieux réalisée que celle de Final Fantasy XIII. désolé pour le troll. Donc en gros,
c'est simple à trouver.
Tu fuis avec ton convoi. Et si tu fais les mauvais choix, les gens meurent de faim et tu perds des troupes, en fait. Et ça, c'est vachement bien foutu, quoi. C'est vraiment bien foutu. Et à plusieurs moments dans le jeu, t'as des choix. Moi, j'avais un mec principal qui était super balèze et qui me permettait de gagner toutes les parties. Et il meurt. Parce que à un moment, t'as une bagarre dans une taverne et tu fais un mauvais choix et le mec se fait tuer comme une merde.
Là où j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que d'habitude, dans les RPG comme ça, quand tu fais un choix, tu sais la conséquence qu'il va y avoir. Et là, tu sais pas du tout. C'est-à-dire que t'as un choix qui sont toujours des choix difficiles et des choix qui. T'as pas d'options ridicules, en fait. Et du coup, tu fais toujours le choix qui te semble personnellement le plus adapté par rapport au personnage et autres. Et la conséquence, elle est directe, mais elle est pas, tu la sens pas, en fait.
Tu vois pas venir.
Et ça, et du coup, pour en finir, le jeu d'aspect graphique incroyable.
Graphiquement, il est beau.
C'est les décors.
Et le 2 est encore plus fin.
Oh, putain, moi, le 2 au Tanoshi Mini, quoi. Carrément, il devait sortir cet hiver normalement. Il était reporté donc courant 2016.
Ouais.
Et ça, c'est clair, je le ferai dès la sortie.
Matt, il a joué, aussi.
Ah oui, bah, il était au Beat Summit.
Ouais, j'ai pas mal parlé avec la dame aussi, qui était fière parce qu'il y a une nouvelle race classe des centaures. Et elle était fière parce que c'est elle qui a fait la motion cap.
Une race qui est classe ou
Les deux, en fait.
Ou une classe qui est race.
Les deux.
Qui a de la race.
Une race qui est classe.
Ok, bon.
Allez, bon, toi, Chris.
Voilà, bah là, on va finir avec moi. Donc, là, j'ai une petite appli. Je fais mon petit schedule de l'année avec mes jeux qui sortent.
Faut que je le fasse.
C'est vachement cool. Par ailleurs, c'est. Comment ça s'appelle alors,
A plus,
non ? Ça s'appelle Awesome Days. Ouais, A plus, Awesome Days. En fait, c'est pas pour le jeu forcément, mais c'est un calendrier. Et tu peux mettre des photos et tout. Et voilà, je m'en connais pour les sorties d'année. Donc, quand je regarde, donc, je vois un Assassin's Creed Unity. Oula, ça me risse l'épaule. Donc c'est un jeu que j'ai vite arrêté. Et il y a quand même alors ça c'est plus d'un an parce que ça fait 405 jours. C'est un nombre de jours. C'est Mario Kart DLC. Le premier DLC c'était ouf quoi, il était vraiment cool. Alors il y a eu pareil, ça c'est plus d'un an. Grim Fandango, ouais. Dragon, enfin voilà, c'est un jeu qu'on connaît déjà. Dragon Ball, le Xenoverse, pareil. Majora's Mask 3D.
J'ai commencé.
Ouais, c'est cette année. C'est il y a 312 jours. Majora's Mask 3D, j'y ai joué une heure. J'ai fermé le 3DS et je l'ai repris deux jours plus tard et plus de batterie, donc j'ai jamais continué. Bon, c'est un jeu que j'ai déjà fait, donc The Order j'ai pas fait. Hotline Miami 2, excellent, moins bien que le 2 quand même, pas le 1, mais il est quand même excellent. Ah oui, alors cette année quand même il y a eu quand même il y a eu Agotoko Ishin, donc le Ishin c'est avant le 0. Le zéro, pareil, je l'ai commencé, mais vu qu'il y a un autre jeu qui est sorti juste après.
T'as pas fini des jeux cette année en fait.
En fait, en début d'année, j'ai commencé beaucoup de jeux que j'ai pas fini. Et après, quand j'avance dans l'année, puis je me rends compte, merde, il y a des jeux qu'il faut que je finisse. Et voilà. Et après, voilà, j'ai mis à fond. Et du coup, justement, moi, j'ai arrêté Yakuza 0 pour Bloodborne. Et quand Bloodborne est sorti, là, ça je l'ai fait, mais d'une traite avec Matt. Voilà, il y avait avec moi, Matt, il y avait qui, il y a deux autres potes quoi, qui étaient à fond dessus.
Quentin,
ouais. C'est mon gothi japonais quoi. C'est vraiment un jeu. En plus, quand t'as déjà fait des Dark Souls et tout, tu retrouves le gameplay avec une petite pincée,
un petit boost
en plus. C'est ultra nerveux en fait.
C'est très proche. Game... C'est plus proche de Demon's Souls.
Ouais, c'est vrai. C'est plus proche de Demon's Souls. Bah, il revient retour sur ça. Retour à comment il s'appelle Miyazaki. L'univers de fou. Enfin, la gameplay avec quand tu tapes un monstre et tu te fais taper. Quand tu perds de la vie, ta barre en fait a diminué un petit peu. Donc la partie qui diminue, elle est rouge, c'est ça ?
Elle reste rouge
pendant quelques secondes, et pendant ce temps-là, si tu tapes un monstre, tu récupères de la vie. Donc c'est à double tranchant quoi. Donc c'est tu vas vers l'avant. Des fois tu fonces parce que tu dis il y a ça qui me reste quoi. C'est soit je fonce soit je crève. Donc c'est ultra dynamique et nerveux. Et là le DLC qui est sorti il y a quelques semaines.
Très difficile.
Et là, parce qu'en fait il y a beaucoup de genre hardcore des Souls-like qui sont pleins. Entre guillemets, à part un boss peut-être, de la simplicité du jeu par rapport au précédent. Surtout à Demon's Souls quoi. Et c'est vrai que il pinait quand même parce que c'est pas un jeu simple, mais c'est vrai que c'est plus simple effectivement.
C'est sûr, quand tu compares avec le DLC.
Ouais, et du coup là, en sorte fait, ils ont fait bon les gars, vous êtes pleins. Bon ben là, hein, vous allez comprendre ce que ça veut dire dur. Le DLC, c'est
une... Alors, on est un peu biaisé parce que nous, on a fait le DLC en NG+.
C'est vrai.
Et apparemment, le NG normal, le G normal, ouais. Est assez simple.
En fait. Oui, sauf que Matt, moi, les boss, je passais comme un Uber en NG+, jusqu'à Rome. Rome, je l'ai défoncé en 2 minutes. Enfin, c'était ridicule.
Je suis vers le Tonitrus, c'est classé.
Là, je suis au niveau 200 et quelques. Et pourtant, avec le niveau 200, le boss optionnel du DLC, il est tellement chiant. Il est vraiment genre, il a 3 transformations. Sa dernière transformation en fait,
c'est
en gros, il te nique avec un coup et le coup qu'il fait, il porte à plus de 300 degrés quasiment. Enfin c'est n'importe quoi. C'est juste, c'est vraiment. En fait, en plus c'est Amélia en version ultra boostée.
Ah, c'est Laurence.
C'est Laurence, voilà. Enfin, on va pas trop spoiler parce que mais en gros, ce qui est vraiment cool dans ce DLC, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans le jeu. C'est pas un truc. En gros, il faut que tu arrives à un point précis dans le jeu, il faut que tu fasses une action précise pour accéder au DLC. Ah, okay. Et tu rentres dedans, et voilà quoi. C'est.
Je l'ai trouvé un peu court. Enfin, je l'ai pas fini encore, mais.
Bah,
mais
voilà.
J'ai compris ce qui reste.
Oui,
quoi.
Oui, oui, oui. Non, mais
en gros,
en fait,
il y a trois mondes.
Il est. Enfin, il est. Moi, j'ai passé quand même 5-6 heures.
Mais tu t'enchaînes vite, je trouve.
Ouais, ça va. En fait, je veux dire, la taille des.
Laboratoire, par exemple.
Oui, en fait, c'est ça. C'est que la taille des espaces sont pas assez grands.
Il y a beaucoup de choses à faire, mais les espaces sont.
Voilà, effectivement. Le dernier espace, le dernier monde, là, il est juste. L'ambiance, elle est ouf. Enfin, je vais rien dire parce que je peux pas spoiler, mais. En tout cas, donc le DLC s'appelle Old Hunters, et donc tu vas dans le nightmare, en fait. C'est le cauchemar des Old Hunters. Parce que les Hunters, en fait, dans le jeu d'origine, t'en as. Par-ci par-là, et quand tu les tues, ils reviennent pas. Donc c'est les ennemis les plus durs. Et en fait là, t'as que ça. Enfin pas que ça, mais t'as quasiment beaucoup de ça.
Chasseurs
qui reviennent tout le temps. En plus des monstres déjà de base qui sont super durs et les boss qui sont juste ouf quoi. Enfin c'est ouais. Déjà les premiers boss t'as compris. Le DLC t'as compris qu'ils rigolent pas.
Ah, le premier ouais.
Voilà.
Il est classe.
Du coup Bloodborne.
Bloodborne côté japonais Bloodborne comme Matt. Pour copier. Il y a eu Shovel Knight cette année aussi, c'est un petit coup de cœur quand même.
Ouais.
Alors Xenoblade, je l'ai pas fait, donc je peux pas dire malheureusement. Witcher 3, c'est génial, à part le gameplay, mais moi, encore une fois, j'ai joué sur console, donc moi je trouve que le framerate c'est une catastrophe sur PS4. Voilà. Persona 4 Dancing All Night, quand même, qui est vraiment cool.
C'est vrai.
MGS5, qui était quand même très cool. Moi je l'ai platiné. Mmh. Et Bloodborne, je l'ai platiné. Tout ça en fin d'année, tu sens le rush, tu te dis, oh, putain, il y a plein de jeux que j'ai pas fini.
Et le chômage aussi.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Non, mais je veux juste en freelance hein, que ça. Mais j'ai beaucoup plus de temps qu'avant, ça c'est sûr. Et voilà, et il y a Fallout 4 qui est sorti, mais j'y joue pas. Parce que je me suis dit, si je commence Fallout, j'ai plus de vie. Et là, vraiment plus de vie.
Ah ouais.
Même s'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le jeu qui te laisse à penser que c'est un mauvais jeu, mais je pense que c'est un très bon jeu. Enfin, genre globalement, le ressenti des gens qui kiffent Fallout est plutôt.
Ben moi, je l'ai pratiqué pendant 15 heures. J'ai oublié d'en parler complètement.
Ouais.
C'est un bon
Fallout, quoi.
C'est un bon Bethesda, quoi.
Oui, ben voilà.
Il faut la quête principale, elle est à chier.
Enfin, en gros, mais c'est ça.
Tu te perds dans l'univers, tu fais plein de quêtes annexes.
Mais en gros, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un Fallout 3 amélioré avec un système Skyrim? Enfin, Skyrim ou.
Mais le Fallout 3 aussi, c'était système Skyrim.
Oui, mais je veux dire, c'est avec l'étendue et la.
Ouais, oui,
la qualité d'un Skyrim.
Mais quoi, bon, de là à faire un Fallout 3D, moi je conseillerais toujours New Vegas, parce qu'un Fallout, c'est un RPG. On fait un RPG pour l'écriture, et l'écriture, il n'y a que New Vegas pour le moment qui a su.
Effectivement.
C'est, quand tu compares l'écriture de Fallout 4 avec Witcher 3, il n'y a juste pas photo, quoi. Tu reviens sur Witcher 3, quoi.
Ok. Et. On finira sur. Moi j'ai envie de finir sur un jeu qui est mon gothi américain.
Comme moi en fait.
Comme Matt. D'ailleurs c'est Matt qui me l'a. Enfin, c'est toi qui me l'a conseillé en premier.
J'étais tanné pendant 2 mois pour que tu le fasses.
Et c'est que j'avais lu pas mal. Enfin, ça parlait beaucoup. Et j'écoute aussi les démons de midi. Ils avaient passé la musique aussi. Et en fait, j'écoutais la musique depuis toujours. Enfin, depuis que j'en avais déjà écouté. Et j'ai en boucle. Et là en fin d'année, je me suis dit, bon, ben, faut le faire quoi, il est temps. Et je l'ai fait d'une traite, et c'est juste trop bien.
T'as pas cité le jeu encore, hein.
Undertale.
Ça s'appelle Undertale.
Et apparemment, il est arrivé au premier, il a pris la première place au Metacritic à Ocarina of Time.
Il était premier sur Metacritic, il avait genre un des plus hauts scores jamais eu sur Metacritic.
Le plus haut score longtemps quoi.
J'ai envie, enfin, ça aussi, ça me dérange, parce que en fait, ça entretient la hype et en même temps, les gens qui me disent ouais, c'est un petit jeu en pixel art, voilà, machin et tout, comment ça
fait sous paint, comme dirait
certains, mais en fait, ce qui est excellent avec ces jeux, mis à part le gameplay original avec en fait un shooter dans un RPG, en fait, dans les phases de combat, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu te fais attaquer, t'as une petite boîte, enfin c'est un carré ou un rectangle suivant la forme, qui est plus ou moins grand, et dans cet espace là il faut que tu évites les attaques sous forme de shooter, et toi t'as un cœur en fait, et le cœur tu le déplaces, Et les attaques sont très différentes. Ça peut être des attaques avec des lasers, ça peut être des attaques avec des feux, avec des animaux qui te sautent dessus. Enfin, c'est trop bien fait, quoi. Et ça évolue. Parce qu'au début, au début, c'est juste un tir tout classique. Et après, ça évolue vers des monstres plus durs, plus en plus durs. Ils ont des attaques plus en plus spéciales. Mm-hmm. Mais tu t'habitues, en fait, intuitivement au gameplay. Et il n'y a aucun moment, il t'explique comment ça marche vraiment. Il y a un tutoriel qui est caché au départ. Mais voilà. Mis à part ça, en fait, moi, dans ce jeu, ce que je trouve génial, et le fait que tu puisses le refaire avec un run différent et tout, avec des liens, suivant ce que tu fais dans un premier run, ça répercute dans le deuxième et troisième run. Mm-hmm. Mais vraiment, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce jeu, c'est le ressenti. Et les trucs que tu peux pas. En fait, c'est la musique d'une partie et l'univers qui t'absorbe. Mais ce jeu-là, il m'a fait vivre des émotions comme aucun autre jeu, même Bloodborne, m'a pas fait vivre toute l'année. Aucun. Ça, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est Hotline Miami 1 ou Fez, quoi. C'est vraiment. Quand j'ai fini le jeu, j'avais des frissons.
Mais c'est ça, en fait.
Et du coup, tu. Enfin. En fait, je pourrais même pas l'expliquer avec des mots, mais des mots dessus, c'est juste. C'est un vrai.
Le problème de ce jeu,
voyage
c'est qu'il
émotionnel.
Il prend toute son ampleur vers la fin. Par un truc qu'on peut pas parler parce que ça serait spoilé.
Effectivement, parce que.
Mais c'est ce qui fait l'intérêt du jeu. En fait.
Le seul truc que je reprocherais au jeu, c'est qu'il y a des petites lenteurs des moments donnés où t'as envie que ça avance un peu et me deuxième reproche, c'est que c'est assez linéaire en fait. T'as pas de map, quand t'as l'impact de la fin, tu pardonnes tout au jeu.
Si je vais pas me le faire.
Mais fais-le. Fais-le.
Ça prend 6 heures.
6 heures. Ouais,
après, il faudrait faire 3 runs. Ouais,
même 3 runs, c'est pas si long que ça.
Ah non, c'est. Mais vraiment, c'est cool. Après, faut accrocher l'univers, faut aimer la musique et tout. Mais voilà. Moi, c'est. Et vraiment, je dis ça au-delà du hype qu'il y a autour. Parce qu'en fait, j'avais peur d'être déçu, en fait. À cause du hype.
Et à partir du moment où je t'ai dit qu'il fallait le faire.
Non, mais. Oui, effectivement. Je peux te croire. Mais quand même, j'avais peur d'être déçu. En fait, j'étais sublimé. Ça aussi, c'est un autre tour de force, quoi. Donc voilà. Donc, on va dire. On va finir le podcast là-dessus.
Ouais.
Pour cette fin d'année.
Les attentes 2016.
Ouais. Et
Dark Souls 3.
Dark Souls 3.
Persona 5 et Zelda, 5. Wii U et NX.
Mais Persona 5, qui sort en 2017, mec. Hein.
Ils l'ont déjà reparti une fois, c'est bon. Non, voilà. Donc, on va lui dire bonne fin d'année.
Yep.
Et buvez pas trop pour le mélan.
Monsieur.
Puis Akeome, comme on dit en japonais.
Akeome.
Donc, ciao.
À bientôt.
À bientôt. Ciao, à l'année prochaine. Ciao. Yeah.